7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 décembre. Éteindre l'incendie coûte que coûte, c'est désormais l'unique objectif du gouvernement qui traverse la semaine de tous les dangers. Alors comment déminer le terrain? Comment calmer les colères? À 7h45, on posera la question à l'économiste Philippe Aguillon. C'est lui qui avait écrit le programme économique d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Que préconise-t-il aujourd'hui? Réponse dans trois quarts d'heure. En tout cas, sur le terrain, les collectivités s'impatientent. En Ardèche, élus de droite et de gauche appellent ensemble à un gel de la fiscalité au 1er janvier pour sortir de l'impasse. Reportage et détails dès le début du journal de 7h avec Hélène Zellani. Ce matin, journalistes, éditorialistes sont mobilisés dans notre matinale, dans votre matinale, pour vous donner les clés de cette crise qui vous préoccupe. Beaucoup de messages, beaucoup d'appels sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur le 3921 d'Europe 1. Jean-Michel Apathy, Nicolas Barré, Axel de Tarlé, Audrey Crespo-Mara qui recevra Nicolas Dupont-Aignan à 8h15. Nous sommes tous sur le pont et si vous vous réveillez tranquillement, on vous accompagne jusqu'à 9h. Vous écoutez Europe 1, c'est parti. Bonne journée à tous.
Un très bon mardi 4 décembre à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h, bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
L'Ardèche envoie un message très clair à l'exécutif. Le conseil départemental vote une motion pour geler la fiscalité sur les carburants. Le gouvernement réfléchit à des annonces qui pourraient être imminentes. Au sein de la majorité, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer des mesures fortes qui feraient retomber la pression. Et puis l'affaire avait fait beaucoup de bruit en 2013. Le mur des cons, un panneau d'affichage qui trônait au syndicat de la magistrature avec des photos d'élus de droite, de magistrats ou encore de journalistes.
Europe 1.
C'est donc un appel qui vient de la ruralité, lancé par des élus qui veulent que le gouvernement entende enfin raison. En Ardèche, les conseillers départementaux de gauche comme de droite viennent d'adopter une mesure très symbolique, une motion pour un gel de la fiscalité des carburants, mais aussi des prix du gaz et de l'électricité au 1er janvier. Rémi Pierre.
Sur les 34 conseillers départementaux, 33, gauche et droite réunis, ont voté ce qu'ils ont baptisé l'appel de l'Ardèche. Des élus secoués par les violences de ce week-end, notamment dans la petite commune ardéchoise du Pouzin, violence qu'ils condamnent d'ailleurs fermement. Mais des élus surtout qui sentent monter depuis plusieurs mois la colère et le désespoir dans leur territoire. Pour Laurent Huguetto, le président socialiste du département, le gouvernement doit aujourd'hui impérativement geler les augmentations de taxes sur les carburants prévues au 1er janvier.
On demande à ce que cette question-là arrête de polluer le débat. Et en faisant ce gel dès le mois de janvier, mais il n'y a pas que le carburant, il y a aussi le gaz, l'électricité, avec les annonces d'augmentation. Donc il faut qu'on donne des signes positifs de réponse à ces manifestants et à ceux qui témoignent de leurs difficultés. Et une fois qu'on a donné les réponses, oui, le débat il peut être local, mais il faut qu'on soit surtout entendu par le gouvernement sur la politique en proximité.
Le texte demande aussi des états généraux de la ruralité, une juste répartition des moyens au territoire et un débat citoyen et participatif, un appel de l'Ardèche envoyé à tous les conseils départementaux de France pour qu'ils le relaient. À Chambéry, Rémi Pierre, Europe.
Et c'est évidemment la question qui revient en boucle. Comment apaiser aujourd'hui la colère des Gilets jaunes?
Le Figaro a retrouvé cette citation du chef de l'État qui date d'il y a un an. « Je ne suis pas fait pour diriger par temps calme, je suis fait pour les tempêtes. » Là, il est servi, ça souffle sérieusement. Hier soir, Emmanuel Macron a d'ailleurs tenu une réunion ministérielle à l'Élysée, notamment avec Édouard Philippe, qui toute la journée avait reçu les représentants des principaux partis. Un Premier ministre attendu ce matin devant le groupe En Marche à l'Assemblée. Alors que les annonces de l'exécutif seraient imminentes, les députés de la majorité s'impatientent et s'affolent, Virginie Riva.
Inquiets, les députés, souvent en première ligne sur le terrain, sont aussi très remontés contre l'exécutif. Une députée raconte avoir alerté depuis des semaines le cabinet du Premier ministre sur la situation insurrectionnelle. Aucune réponse. Un autre député de la majorité renchérit. Si j'étais Emmanuel Macron, je me séparerais aujourd'hui d'Édouard Philippe. Des annonces sont attendues. Un moratoire sur la taxe sur le carburant semble déjà envisageable. C'est ce que réclame notamment le député En Marche Mathieu Orphelin.
Il faut une ou deux mesures fortes. Est-ce que la bonne mesure, c'est une pause de 3 mois sur la hausse de la fiscalité écologique prévue au 1er janvier? C'est une possibilité. Des mesures fortes comme ça, qui seront comprises par tous et qui vont permettre de diminuer la pression, apaiser le pays et faire que le week-end prochain, on soit dans un pays serein.
Mais ça ne suffira pas. Un certain nombre de députés souhaitent aussi une autre mesure d'accompagnement, comme une prime mobilité. un coup de pouce au SMIC ou encore une baisse de la TVA sur l'électricité. Tous craignent sinon que le pays s'embrase. Beaucoup se posent même cette question, n'est-ce pas déjà trop tard, sans vouloir formuler aujourd'hui de réponse définitive.
Virginie Riva, Édouard Philippe est censé recevoir des gilets jaunes cet après-midi à Matignon, mais la plupart ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas car ils ont reçu des menaces de mort de la part d'autres membres du mouvement. Europe 1 est 7h04.
Elle se profile à l'horizon, la fameuse convergence des luttes, la contestation a gagné les lycées hier.
Oui, des gilets jaunes aux gilets jaunes, il n'y a qu'un pas, plus d'une centaine d'établissements bloqués ou perturbés dans toute la France, académie la plus touchée, Toulouse, où quelques 700 lycéens ont battu le pavé dans une ambiance parfois tendue, des jeunes dont les revendications sont très larges, reportage de Benjamin Péter.
Ils ont tout fait au pas de course, d'abord pour rallier d'autres lycéens en allant d'établissement en établissement, puis pour tenter de semer les forces de police qui, pendant de longues heures, ont cherché à les disperser avec des gaz lacrymogènes. Une manifestation sauvage qui a rassemblé jusqu'à 700 lycéens. Alors certains portaient un gilet jaune, mais pour Clément, leurs revendications sont bien différentes.
C'est le mouvement lycéen en fait, c'est contre Parcoursup. C'est contre la réforme de l'éducation, c'est contre la loi RE, c'est contre la hausse des prix pour les étudiants étrangers. C'est la démission de Macron, ce qu'on veut. Je pense qu'on peut le dire, c'est la démission de Macron.
Éric, justement, porte un bidon d'huile sur lequel il tape pour scander son slogan. Pour lui, le mouvement des Gilets jaunes a été un déclencheur.
Moi, je passe mon bac dans 2 ans, je ne sais pas sur quoi je le passe. Les profs eux-mêmes ne savent pas sur quoi on va le passer. Les gilets, c'est les parents. Et ils nous ont donné le coup de main, ils nous ont dit lancez-vous les jeunes. Ils ont commencé, ils ont ouvert le chemin, ça nous détermine en tant que le futur de demain.
Alors comme lui, beaucoup espèrent que de nouveaux blocages dans les lycées auront lieu ce matin. Ils se sont d'ailleurs donné rendez-vous en début d'après-midi dans le centre-ville pour recommencer le jeu du chat et de la souris dans les rues de la ville. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Un bilan de cette manifestation, 7 policiers blessés ainsi qu'un pompier et 11 jeunes arrêtés pour des vols et des dégradations de commerce. Toulouse, où un gilet jaune blessé samedi est désormais entre la vie et la mort, il aurait été touché par un tir de flashball. D'autres grognes se font entendre. À Chartres, une centaine d'agriculteurs ont déversé 40 tonnes de pierres devant la préfecture d'Eure-et-Loire hier soir pour protester contre la hausse des taxes agricoles. Des ambulanciers se sont aussi fait entendre hier. 600 de leurs véhicules ont bloqué les abords de la place de la Concorde pour défendre leur métier. Puis encore un mot pour vous dire qu'Emmanuel Macron s'est engagé à verser une prime exceptionnelle aux forces de l'ordre mobilisées lors des manifestations de samedi. On ne sait pas encore son montant.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zelani et puis l'affaire du mur des cons. Sans oublier Modric, Ballon d'Or 2018, déception pour les Français. A tout de suite sur Europe 1. La suite du journal avec Hélène Zelani et le retour de la fameuse affaire du mur des cons, Hélène.
Oui, vous vous en souvenez sans doute. C'était il y a 5 ans, un panneau d'affichage dans les locaux du syndicat de la magistrature avec plusieurs photos d'élus de droite, de magistrats, de journalistes et même de 2 paires de victimes avec cette mention. Avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y ait pas déjà. L'ex-présidente du syndicat doit donc répondre d'injures publiques. Chloé Triomphe.
Ce pêle-mêle de photos, c'était un défouloir, explique aujourd'hui le syndicat de la magistrature, en réaction au contexte de 2013 où les magistrats étaient la cible récurrente d'attaques politiques. Parmi les photos se trouvaient en effet un certain nombre d'élus de droite, dont Nicolas Sarkozy, mais aussi bien d'autres personnalités, 2 parents de victimes et même des confrères magistrats, comme Guillaume Didier, ancien porte-parole de la chancellerie.
J'ai été quand même un peu attristé parce que je me suis dit que, en fait, peut-être que je serais amené un jour à siéger avec ces collègues qui m'ont épinglé sur ce mur des cons à une audience correctionnelle pour juger un de nos concitoyens. Ça abîme l'institution judiciaire parce que ça donne l'image d'une justice partiale et militante. Et c'est d'autant plus regrettable que c'est compliqué de juger les autres. La justice, elle est méconnue de nos concitoyens, elle est incomprise et ce mur est une caricature. Ce mur ne correspond pas à ce que sont les magistrats.
Mais c'est pourtant un dommage collatéral de cette affaire, car c'est depuis une critique récurrente qui est faite aux magistrats, et particulièrement dans les dossiers sensibles.
Chloé Triomphe.
Le monde du foot a choisi son roi, c'était le Croate Luka Modric.
Oui, à 33 ans, il décroche son premier ballon d'or au nez et à la barbe des Bleus, champion du monde. Seul Français sur le podium, Griezmann, 3e derrière Ronaldo. Finalement, la victoire du meneur de jeu du Real était logique, Jean-François Pérez.
Ils étaient 7 Français dans les 30 finalistes du Ballon d'Or, 6 champions du monde et Karim Benzema. C'était hélas beaucoup trop. Les votes des quelques 192 journalistes du monde entier se sont éparpillés. Il y avait les pros Griezmann, sans doute le Français le plus connu à l'étranger, les fans de Kylian Mbappé qui devra pour l'instant se contenter du trophée du meilleur espoir et les légitimistes qui ont préféré Raphaël Varane, seul joueur à avoir réalisé le doublé Ligue des Champions, Coupe du Monde, mais il est défenseur et ce n'est sans doute pas assez glamour. Tout cela fait donc le bonheur de Luka Modric, étincelant cette saison sous le maillot maillot du Real comme de la Croatie. Modric, 33 ans, l'unique superstar d'un pays de 4 millions d'habitants qui aura donc soufflé à la France et la Coupe Davis et le Ballon d'Or en 2018.
Jean-François Pérez, le nouveau directeur du service des sports d'Europe 1.
Bienvenue dans la maison Jean-François Pérez, c'était le journal d'Hélène Zellani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10. Souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré, Nikos.
On attend vos réactions également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et la question du jour, elle est simple. Faut-il ouvrir les vannes pour éteindre le feu et laisser déraper le déficit public français au-dessus des 3% du PIB? Bon, c'est une question qui agite la majorité.
Oui, cette crise pourrait faire perdre ce qui était jusqu'ici la boussole de toute politique économique, vous le savez bien, le retour du déficit sous la barre des 3%, les gilets jaunes réclament du pouvoir d'achat, eh bien hop, allons-y, desserrons la contrainte et tout ira mieux. Alors est-ce possible? Oui, bien sûr, le déficit est attendu à 2,8% l'an prochain, on a donc un tout petit peu de marge et en plus ce chiffre intègre pour près d'un point un élément qui est exceptionnel, la bascule du CICE en baisse de charges sur les salaires. Donc oui, techniquement, on pourrait laisser filer le déficit pour financer des mesures de sortie de crise, sans provoquer une crise majeure avec Bruxelles, même si ça affaiblirait quand même un peu la position française.
Pourquoi s'en priver alors? Parce que ce sont les statistiques contre la réalité du quotidien.
Eh bien pourquoi s'en priver? Parce que ça ne changerait pas vraiment la donne en matière de pouvoir d'achat et ce serait tromper les gilets jaunes que de leur faire croire que l'État peut réellement améliorer leur sort en dépensant plus. Avec une dette à 100% du PIB, l'État n'a pas de manne à redistribuer, pas plus d'ailleurs qu'il n'a la possibilité de fixer les salaires, sauf à imposer une hausse du SMIC dont on connaît les risques qu'elle comporterait sur l'emploi et les PME. Alors où sont les vraies marges de manœuvre? Eh bien un, bien sûr, dans la croissance, il n'y a pas mieux pour relancer le pouvoir d'achat, et puis deux, dans une meilleure efficacité de la dépense publique, car c'est ce qui explique la situation actuelle. Une grande frustration à l'égard de services publics pas assez efficaces, pas assez présents, parfois défaillants, alors que nous les payons très cher, nous battons tous les records de prélèvements. Avant de penser à redistribuer de l'argent que nous n'avons pas, commençons par mieux dépenser celui que nous avons. Il y a mieux à faire que de laisser filer le déficit.
Merci Nicolas Barré. Alors sortir provisoirement de la contrainte européenne des 3% de déficit, est-ce que c'est la bonne solution? On posera la question à l'économiste Philippe Aguillon. Il a été conseiller d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il sera mon invité à 7h45. L'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Et il est 7h12, comme chaque matin. À 7h6, on retrouve Martin Fenot, Nikos, quelque part en France.
Vous êtes où ce matin, Martin? Bonjour.
Bonjour, alors vous devez l'entendre, je suis au bord d'une route, une route départementale où les limitations de vitesse changent en moyenne tous les kilomètres. Ah, c'est la D606 entre Sens et Auxerre, ça fait 5 mois que ça dure depuis la mise en place des nouvelles limitations à 80 km/h. Alors, un changement tous les kilomètres, vous allez me dire que ça paraît un peu exagéré. Et pourtant, je me suis renseigné auprès de deux chauffeurs de taxi qui l'empruntent plusieurs fois par jour. Écoutez, ils décrivent les premiers kilomètres.
Vous allez faire 2 km, 1 km à 70, 90, il y a 70. Vous allez passer à 70, Armeau à 70, 50.
50, Armeau.
Oui,
là, il y a 70, 50, 50 90, 90, 80, 90.
Il y a trop de panneaux.
C'est
la galère.
On est trop pris dedans. Toujours inquiet de dire la vitesse, il faut descendre à 70, 80, 80. Sinon, t'es flashé.
Bah oui, évidemment, il y a des radars sur la route, on a compris. Mais est-ce que c'est si compliqué d'adapter sa conduite, Martin?
Alors sincèrement, j'ai essayé. En l'espace de 5 kilomètres, j'ai croisé tous les panneaux possibles. Effectivement, 90, 80, 70, 50. Donc bah, ça demande beaucoup de concentration. C'est même stressant pour Dominique, par exemple, qui habite au bord de cette route.
On est obligé de regarder le compteur en permanence et on ne fait plus forcément attention à ce qui se passe autour. Ça énerve les gens et les gens, du coup, ils font plein d'âneries, quoi. Ils ne respectent pas le code de la route. On voit des gens doubler sur des lignes continues, on voit des gens faire n'importe quoi.
Alors ce que nous dit cette habitante, c'est que ça demande une concentration, donc ça crée du danger, c'est ça Martin?
Oui, notamment parce qu'il y a des poids lourds aussi qui circulent évidemment sur cette départementale et parfois, eh bien, ils refusent d'adapter leur vitesse.
Ça te fait flipper quand t'as un 30 tonnes derrière toi là, qui est à ton pare-choc, là, t'es dans le rétro, tu te dis putain, l'autre il arrive, tu flippes et là t'es mal quoi. Et l'autre il te double à un moment donné. Il y en a qui freinent, qui savent plus où ils sont. Et là, ce matin, il y avait un mec qui était dans le fossé. Là.
Et ça, c'est à cause des changements réguliers de vitesse autorisée?
Oui, parce qu'il y a des camions, ils n'ont pas le choix, ils ont un délai à respecter. La route devient sauvage.
Alors, une route sauvage dans l'Yonne, y en a-t-il d'autres comme celle-là en France, Martin?
Oui, le magazine Auto Plus a recensé une dizaine d'itinéraires. Alors j'en cite quelques-uns, Bourges-Nevers, Le Mans-Angers, Brive-Bordeaux ou encore Dijon-Beaune, où il y a plus de 42 panneaux de changement de limitation sur un parcours de 36 km.
Martin Fenot, sur la route sauvage D606, on entend les voitures et les camions qui passent. Bonne journée à vous, hein. Vous êtes entre Sens et Auxerre, soyez prudents. Vous êtes où ce matin? C'est tous les jours sur Europe 1. À 7h12.
Europe 1. Et il est 7h15, reste avec nous sur Europe 1 à suivre Nico Saliagas.
Céline, c'est la tendance du moment. Mm-hmm. 100 000 Français ont déjà tenté l'expérience. Est-ce que vous l'avez fait, le test génétique?
Pas du tout, non.
Bah, l'idée, c'est de connaître, grâce à votre ADN, vos origines ethniques et géographiques, mais pas seulement. Enquête sur ces tests en plein boom dans Europe 1 va plus loin. Juste après ça.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le avec le hashtag Europe 1. Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Le gouvernement avait promis de maintenir le cap, mais il pourrait finalement lâcher du lest face à la grogne des gilets jaunes. Un geste important pourrait être rapidement annoncé, comme le gel des taxes sur les carburants. Les gilets jaunes qui ont poursuivi leur opération de blocage hier, le mouvement entraîne une pénurie de carburant dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Le meilleur joueur de foot du monde est croate. Il s'appelle Luka Modric. Il décroche le Ballon d'Or 2018. Kylian Mbappé est sacré chez les moins de 21 ans.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au business des tests génétiques.
Ce sont des tests très en vogue en ce moment. Et pourtant, officiellement, ils sont toujours interdits en France. Alors l'idée est simple, en savoir plus sur ses origines ethniques, son arbre généalogique ou même sur sa santé, et ce grâce à son ADN. Il y a encore quelques années, ces tests étaient pratiqués uniquement dans le cadre de la recherche ou à l'hôpital. Mais désormais, pour près de 90 euros, on peut faire séquencer notre ADN. 100 000 Français auraient déjà fait l'expérience. Alors ces tests sont-ils fiables et surtout utiles? On en parle avec Mélanie Gomez, spécialiste santé à Europe 1. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Concrètement, comment ça marche un test génétique?
Eh bien, même si c'est interdit en France, pour s'en procurer, c'est très simple. Ça ne prend que quelques minutes pour le commander sur des sites américains, suisses ou belges. 80 euros et 4-5 jours plus tard, vous le recevez à domicile. Ensuite, une fois que vous avez le kit de prélèvement entre les mains, c'est un simple test salivaire, très facile à réaliser. Vous n'avez plus qu'à le renvoyer et 6 semaines plus tard environ, vous avez les résultats.
Et qu'est-ce que ces résultats vous apprennent?
Eh bien, ces tests vous indiquent les zones géographique d'où viennent vos ancêtres. Ça apparaît sous forme d'une carte du monde. Ces zones sont plus colorées que les autres. Si je prends mon exemple, ces résultats m'ont confirmé que 3/4 de mon patrimoine génétique est d'origine espagnole. Et surprise, qu'une toute petite part de mon ADN vient d'Afrique. Je l'ignorais totalement.
Caramba, Mélanie, justement, c'est le risque des tests. Mais comment on le fait pour s'amuser, souvent par curiosité généalogique? On peut faire des sacrées découvertes?
Et oui, complètement. Alors certains se découvrent des origines qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on leur a raconté depuis toujours. C'est ce qui est arrivé à mon mari, Mikis, vous allez l'entendre. Depuis qu'il a fait le test, ses origines ne collent plus vraiment avec son prénom.
Mon prénom, c'est Mikis, donc c'est un prénom d'origine grecque, parce que je suis d'origine grecque. Enfin, j'étais d'origine grecque, parce que depuis qu'on a ouvert les tests, j'ai découvert que je suis passé de, on va dire, 60% de grec à 2%. Ah, c'était la légende familiale. Ma grand-mère a été enterrée sous le culte orthodoxe, on a tout fait à la grecque, il y a une vraie légende grecque chez moi, ils vont tous en vacances en Grèce, parce qu'on est grec, et patati, et patata, et en fait, je me retrouve avec 2% de grec.
Mais il est quoi, sinon?
Français surtout.
Il va falloir que je fasse le test alors. Je sens que je vais passer le test. Alors bon, ça c'est la partie récréative, la partie généalogie. Mais avec ces tests ADN, on peut aussi avoir accès à des données plus pointues, plus personnelles, des données médicales.
Et oui, tout à fait. Pourtant, normalement, on n'a pas accès à ce type de données quand on commande le test depuis un ordinateur en France, puisque c'est interdit. Mais beaucoup contournent le système, soit en faisant transiter le test par un pays où c'est légal, les Pays-Bas par exemple, soit en transférant les données brutes de son séquençage ADN à des sites internet qui proposent ce service médical moyennant quelques euros. C'est ce qu'a fait Paul, 36 ans, en bonne santé. Il l'a fait par curiosité, mais il a quand même appris quelques infos qui l'ont inquiété.
Ce que je lis là, c'est dépendance à l'héroïne plus élevée chez les personnes de votre génotype. La phrase juste en dessous, c'est envie plus forte pour l'alcool.
Mais de le savoir, ça fait quoi?
C'est vrai qu'avoir cette information, je ne regarde pas un verre d'alcool de la même façon. Pour moi, c'est juste un terrain préexistant qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce que j'ai 72% de plus de risque que la moyenne de la population de devenir schizophrène que je vais le devenir. Je vais quand même aller poser la question à mon médecin. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qui est en dessous de 50%, je ne vais pas interroger mon médecin parce que le nombre de maladies qui sont détectées, il y en a à peu près une trentaine. En revanche, sur certains trucs qui vont m'inquiéter, je vais en parler à mon médecin. Peut-être que lui va me dire, il va me rire au nez en me disant « Mais attends, redescends quoi ».
Mais ils en pensent quoi précisément les médecins en France ?
Eh bien, dans le milieu médical, on regarde l'arrivée de ces tests avec scepticisme. D'abord parce que les spécialistes confirment ce que disait Paul juste avant. Avoir 60 ou même 90% de risque d'avoir une maladie, ça ne veut pas du tout dire qu'on l'aura forcément. C'est un risque relatif, tout dépend de votre environnement, de votre hygiène de vie. Résultat, avec l'engouement actuel pour ces tests génétiques, le nombre de patients angoissés qui débarquent dans les consultations de génétique augmente. Oui, surtout en ce moment où c'est devenu tendance de l'offrir à Noël, explique le professeur Stanislas Lyonnais, directeur de l'Institut des maladies génétiques Imagine.
Nous voyons en consultation très régulièrement venir ou revenir des personnes avec des liasses de papier parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de en quoi ils mettaient la main ou le doigt ou le pied, c'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés pour un test qui pour eux était léger. Mais en fait, on reçoit des informations capitales et parfois scientifiquement solides. Je suis porteur de telle maladie, de la mucoviscidose, j'ai un risque d'avoir la maladie de Huntington, j'ai un risque de cancer du sein ou de l'ovaire pour une femme. Ce sont des informations capitales, non déclarées, non informées, non accompagnées. Donc trouver ça sous un sapin de Noël, je trouve que c'est ridicule.
Voilà, si les généticiens parlent de cadeaux de Noël, c'est vraiment parce qu'aux États-Unis notamment, c'est vraiment en train de devenir le best-seller des cadeaux de cette fin d'année. D'ailleurs, au Black Friday, ça faisait partie des produits phares, avec ce genre de promo assez hallucinante quand on y pense. Séquencer votre génome à moins de 50%, je vous laisse juger.
C'est une histoire d'identité, savoir d'où on vient et qui on est. Je vous paye un test,
Céline Lacoste. Ça m'intéresse vraiment, oui.
Ah ben voilà, ça, vous avez vu. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé de la rédaction, pour cette enquête très intéressante. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours. À 7h20.
Europe 1.
Et il est 7h23.
À suivre l'innovation du jour avec Anis et Mbida. On est dans l'actu. Peut-être une belle idée pour compenser la fermeture des petites lignes de la SNCF à la campagne et désenclaver les territoires ruraux. Mettre des taxis autonomes sur les rails. On vous dit tout juste après ça.
7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anis Mbida, Nicolas Aliagas.
Mon cher Anis, depuis le rapport Spinetta sur la SNCF, on sait qu'environ 200 petites lignes ferroviaires non rentables pourraient être bientôt supprimées, ce qui obligerait encore plus à utiliser la voiture dans les campagnes. Mais Anis, vous avez peut-être une solution pour sauver le train dans les zones rurales.
Oui, parce que si ces lignes ne sont pas rentables, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui circule dessus. On a des TER de 80-100 places, mais qui roulent quasiment toujours à vide. Alors pourquoi ne pas les remplacer par une sorte de taxi sur rail avec une cabine d'une quinzaine de places assises qui circulerait de façon autonome et à la demande. En fait, ça fonctionnerait un peu comme les VTC partagés. On aurait une application et on commande son taxi rail et hop, on sait qu'il va nous attendre à telle gare dans 10 minutes. C'est moins cher, c'est plus rentable qu'un TER et c'est une excellente idée d'une start-up bretonne qui s'appelle Exid.
Et ça existe déjà, Exid ?
Bah non, parce que la SNCF, pas pour le moment, le monopole. C'est la seule à pouvoir utiliser les petites lignes de TER. Mais à partir de 2023, ça va changer, toutes ces lignes seront ouvertes à la concurrence. Donc, on pourra y faire circuler ce qu'on veut. Dont ces taxis rails. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de batterie, donc il n'y a pas besoin de ligne électrifiée, il n'y a pas non plus besoin de chauffeur, puisque c'est un taxi autonome, donc il peut rouler 24 heures sur 24. Et au total, le coût d'exploitation sera à peu près le même que celui d'un autocar, et en plus propre et en plus sécurisé, parce qu'il circule toujours sur des rails. Et moi, j'aime beaucoup cette idée, parce que c'est à la fois une alternative à la voiture et une belle façon de lutter contre l'isolement des campagnes.
Vous avez raison, Anis Mbida, l'innovation sur les bons rails, c'est tous les jours. À 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF et ses filiales accompagnent le déploiement de nouveaux modes de transport et imaginent la mobilité électrique de demain. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Et des averses encore possibles sur la moitié nord, même si on peut deviner quelques éclaircies.
Justement, Nikos, je voudrais changer par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je veux être quand même un peu plus optimiste. Tout à l'heure, je voyais toutes les choses en gris. Je vois pourquoi.
Parce que là, pour l'instant, tout est gris, c'est pour ça.
Ça reste gris, mais il y a en météo, il y a la lecture des cartes et l'impression des cartes. Et moi, je reviens vers l'impression des cartes, compte tenu de la douceur, compte tenu de la luminosité, compte tenu du fait que de plus en plus nous aurons des éclaircies dans l'après-midi. Je voudrais dire à nos amis que la journée ne sera pas si moche que ça.
Voilà. Ah,
c'était
merci.
Simplement ce message d'espoir que je venais transmettre à la nation.
Merci.
Enfin, je rigole, mais c'est vrai. Alors, sur la basse Normandie, la région parisienne, la Champagne, le Berry, le centre et la région lyonnaise, les éclaircies seront là dans l'après-midi, comme sur Paris. Sur la Franche-Comté, la Bourgogne et l'Alsace, ce sera plutôt sans grand changement, mais enfin, s'il y a des averses, il y a forcément un rayon de soleil. Du Poitou-Charentes au Limousin, à l'Auvergne et à la région lyonnaise, le ciel va devenir lumineux. Enfin, au sud-ouest, bassin méditerranéen, sous le nord, la Picardie, les Ardennes et la Lorraine. Vous avez noté que ça va du sud au nord. Dans ces deux paquets de régions, les éclaircies vont s'imposer et des températures entre 11 et 18 degrés. Franchement, ce sera sympa. Un peu frais à Paris, 12 à Paris, mais 17 à Bordeaux, 18 à Marseille et 19 à Biarritz.
Merci Laurent Cabron, à tout à l'heure.
À suivre, Nico Saliagas.
Comment renouer le dialogue avec les Gilets jaunes? On en parle avec Jean-Michel Apathy dans 10 minutes. 7h45, mon invité, l'économiste Philippe Aghion. Quelle est sa vision pour sortir de la crise? Je lui poserai la question. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 4 décembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les choix sécuritaires faits à Paris samedi dernier n'étaient pas les bons. Devant la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis de changer de méthode pour lutter contre des manifestants très mobiles.
Il va nous falloir revoir la doctrine face à ces nouvelles formes de violence. Il faut bien évidemment que nous puissions avoir des moyens différents. Et je l'ai dit pour le renseignement, comme je dis pour le maintien de l'ordre public, ça fait partie des chantiers que nous souhaitons évidemment ouvrir parce qu'on voit qu'on a des doctrines qui ne sont plus adaptées à la réalité des violences dont on fait l'objet.
Christophe Castaner avec Victor Dolande, le ministre de l'Intérieur, qui hier soir a demandé aux organisateurs de la marche pour le climat prévue samedi à Paris de ne pas la maintenir. Surréaliste pour Cyril Dion, réalisateur engagé, qui était ce matin l'invité de Mathieu Noël dans Debout les copains sur Europe 1.
Il faudrait renoncer à la marche pour le climat parce que le gouvernement n'est pas capable de créer un véritable dialogue et n'est pas capable de créer de l'équité dans ce pays. Moi, j'appelle à maintenir cette marche et j'appelle aussi les Gilets jaunes à faire en sorte que ceux qui aujourd'hui créent de la violence ne le fassent pas samedi et qu'on crée un cortège pacifique ensemble pour, encore une fois, essayer d'unir nos forces pour transformer ce système.
Cyril Dion sur Europe 1. Emmanuel Macron, désormais engagé dans une course contre la montre, a promis hier une prime exceptionnelle pour les forces de l'ordre. Il a réuni hier soir tous les autres ministres concernés par la crise qui secoue le pays. Le chef de l'État qui a vidé son agenda jusqu'à jeudi. Voyage en Serbie annulé.
Après les violences et les dégradations de samedi, 73 personnes ont été jugées hier en comparution immédiate.
Oui, des prévenus souvent arrêtés samedi matin sans avoir commis de violence ni de dégradation, mais simplement soupçonnés d'avoir voulu se mêler aux casseurs, comme ce groupe de collègues, 5 hommes qui travaillent pour une usine dans l'Essonne. Jugement de 4 mois avec sursis à 3 mois ferme. Pour leur avocat Samuel Jean, la justice ne condamne pas les bonnes personnes.
C'était des gens tous pères de famille, ayant des revenus entre 1500 et 2500 euros. Quelques difficultés financières liées soit à des reconfigurations familiales, des parents dans le besoin, des grands-parents dans le besoin dont ils s'occupent, etc. Donc c'était vraiment des gens simples, travailleurs, qui n'étaient absolument pas contre le principe de l'État. C'était des gens qui venaient manifester en faisant éventuellement un peu de bruit, mais certainement pas des casseurs. Et donc on a vraiment là une décision qui montre une volonté de bloquer ce mouvement dès à présent, y compris à l'endroit des gens qui ne sont pas des casseurs, donc de ne pas séparer le bon grain de l'ivraie.
Samuel Jean avec Pierre de Cossette pour Europe 1. Le parquet de Paris a aussi ouvert une enquête après une interpellation ultra-violente d'un homme en train de se faire rouer de coups à terre par 8 membres des forces de l'ordre. Enquête confiée à la police des polices. Le plaignant, déjà opéré une fois, pourrait perdre l'usage de son œil.
On a tous en tête les images de l'Arc de Triomphe saccagé samedi par des casseurs.
Eh bien, un militaire à la retraite d'Abbeville dans la Somme a lancé un appel sur les réseaux sociaux. François Pellegrin veut former une chaîne humaine pour protéger l'édifice samedi prochain. Il promet de le faire en liaison avec les autorités.
Pour la plupart, nous sommes anciens militaires ou proches de militaires. Et donc, nous respectons nos institutions. Nous respecterons les consignes qui seront données sur site par les forces de police. Il y a quand même un risque qu'il y ait des affrontements entre des personnes qui veulent casser ou des anarchistes ou quoi que ce soit. Donc, nous ferons tout posément et sans vouloir se confronter à qui que ce soit. Maintenant, on n'a peur de personne. Et nous ne laisserons pas des casseurs investir le site pour le casser.
François Pellegrin avec Lionel Gougelot pour Europe 1. Et l'appel ce matin sur Europe 1 d'une artiste engagée, Agnès Varda, 90 ans, qui soutient les Gilets jaunes. Elle propose le rétablissement de l'ISF.
Moi, je suis pour remonter le SMIC et remettre l'impôt sur les fortunes déjà pour commencer. Et puis après, voir de près les problèmes. J'ai fait un documentaire dans ma rue sur les petits commerçants, sur les squatteurs, sur les glaneurs, des gens qui ramassaient la nourriture par terre et qui dormaient dans des caravanes. Et il y avait des gens qui étaient dans leur métier, dans leur propre vie, qui ne se plaignaient pas parce qu'ils n'étaient pas très malheureux. Ils étaient juste en difficulté.
Agnès Varda avec Mathieu Charrier pour Europe 1.
Et Céline Kallmann, plusieurs secteurs d'activité sont en train d'emboîter le pas aux gilets jaunes.
Oui, chacun voit dans cette crise l'occasion d'essayer d'obtenir quelque chose. Les agriculteurs manifesteront la semaine prochaine, a promis la présidente de la FNSEA. Blocage d'une centaine de lycées hier à travers toute la France. Des dépôts pétroliers sont toujours bloqués dans l'Ouest avec des pénuries dans de nombreuses stations d'essence du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan. Cette information de notre correspondant Stéphane Place, aucun tramway ne circule ce matin dans l'agglomération bordelaise en raison d'un important incendie sur un poste de commande. Des bus assurent les liaisons.
Francis Holm, rejugé pour le meurtre de deux petits garçons.
Alexandre et Cyril, ils avaient 8 ans en 1986, tués à coups de pierre sur un talus SNCF à Montigny-lès-Metz en Moselle. Plus de 30 ans après cette affaire hors norme qui a vu Patrick Dils passer 16 ans derrière les barreaux à tort. Un nouveau procès s'ouvre donc aujourd'hui devant la cour d'assises de Versailles. Nouvelle épreuve pour la maman de Cyril Bénin. Elle est hospitalisée, gravement malade. Écoutez son avocat, Maître Beaupetit.
Elle me dit, ça va recommencer. Il va y avoir, sur un grand écran, dans la salle de la cour d'assises, mon fils mort sur le talus de chemin de fer et tous ces gens qui vont venir donner des détails. Vous savez, Madame Bénin, elle m'a jamais dit « Moi, je veux la tête d'un tel, je veux la tête de Holm, je veux la tête d'un autre. » Elle n'est pas du tout là-dedans. Elle dit « Je veux savoir, je veux comprendre comment mon gamin est mort et pourquoi. Pourquoi ?» C'est ça qui la tient. Cet enfant, voilà, il y a sa photo sur son buffet de cuisine et elle lui parle en permanence. Elle a dit « T'inquiète pas, Bibiche, je lâcherai pas. »
Maître Beaupetit au micro d'Alain Acco pour Europe 1.
C'était le journal de Céline Kallmann. N'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale.
Oui, pour ça, rien de plus simple. Vous nous appelez au 3921. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h36.
Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour, Nikos.
La délégation des Gilets jaunes qui devait rencontrer Édouard Philippe cet après-midi, finalement, ne se rendra pas à Matignon.
Non, et alors, du coup, nous sommes dans la situation tout de même inédite où il y a un conflit majeur. Et il n'y a pas d'interlocuteur pour négocier. Alors comment on fait ? C'est quand même un problème et je vais vous expliquer pourquoi les gilets jaunes sont incapables de désigner des gens pour négocier. Ce n'est pas très difficile à comprendre, mais ça a des conséquences très importantes.
A tout de suite, Jean-Michel Apathy.
7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, aucune négociation n'est donc possible entre les gilets jaunes et le gouvernement.
Ben non,
aucune... On est au point mort.
Oui, au point mort, vous vous rendez compte, on a 3 semaines de blocage, de manifestation, une journée de samedi prochain qui nous fait peur à tous parce qu'on n'a pas envie de revivre les violences et malgré tout nous n'avons aucun, c'est incroyable ça, interlocuteur crédible pour représenter un mouvement qui génère une violence immense et qui menace l'économie de la nation. C'est une forme d'irresponsabilité politique que nous n'avons jamais connue, qui ne correspond à rien de ce que nous enseignons dans la société en général, et bien entendu, cela complique la sortie de crise. Pourquoi est-ce que le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas être représenté ? Parce que l'ouvrier qui a enfilé un gilet jaune et qui demande l'augmentation du SMIC pour finir ses fins de mois n'a pas de pire adversaire que le commerçant ou l'artisan qui a aussi enfilé un gilet jaune, mais qui ne veut pas de l'augmentation du SMIC, parce que sinon il a peur de déposer le bilan avec sa petite entreprise. Et ce commerçant ou cet artisan, lui, ce qu'il veut, c'est une baisse des charges. Et il se moque bien que la baisse des charges pénalise la sécurité sociale parce que ça va la priver de recettes, dont profite l'ouvrier qui a enfilé un gilet jaune. Le mouvement des gilets jaunes, pour le dire simplement, c'est un vaste bazar où on trouve tout et son contraire. Un autre exemple, on présente ce mouvement comme un mouvement luttant contre les inégalités. Pamela Anderson, l'actrice d'Alerte à Malibu, a fait 3 tweets hier parce qu'elle s'intéresse à la politique française vu qu'elle vit avec Adil Rami, le joueur de football marseillais. Dans ces 3 tweets en américain, elle explique qu'elle soutient le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils luttent contre les inégalités. Foutaise ! Pamela Anderson, pas plus d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, ne lise les cahiers de doléances des Gilets jaunes partout en France. Il y en a des dizaines. Eh bien, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, 2 cahiers sur 3 revient cette mention « Il faut en finir avec l'assistanat ». Ah ben ça, c'est une politique anti-inégalitaire si on supprime le RSA, les aides au logement et compagnie. Mais c'est de la foutaise de penser que ce mouvement est anti-égalitaire. Alors heureusement, il y a Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle fait la synthèse de toutes les contradictions. Elle était reçue hier par Édouard Philippe et dans la cour de l'hôtel Matignon, Marine Le Pen, c'est simple, plus démagogue qu'elle, il n'y a pas, elle dit oui à tout, on l'écoute.
Elle nous lui avait indiqué qu'il fallait une baisse du prix de l'électricité et du gaz, la suppression de l'augmentation des taxes sur
l'essence et le gasoil, une augmentation des salaires minimums et retraites minimums.
Ben voyons, on dit oui à tout. S'il y avait une musique qui symboliserait Marine Le Pen ce matin, ce serait celle-là. Voilà, on avait perdu le Père Noël et on a retrouvé la Mère Noël.
En tout cas, vous exprimez votre point de vue, vous tranchez, vous avez beaucoup de réactions après sur les réseaux sociaux.
Beaucoup, et je vais vous dire, l'édito d'hier par exemple, où j'ai dit que la violence était au cœur du mouvement des Gilets jaunes, a suscité un paquet de tweets que je n'avais pas eu depuis longtemps positifs.
Bon, écoutez, c'est plutôt...
Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas quelques-uns négatifs au milieu. Hein.
On verra après votre chronique d'aujourd'hui. Merci Jean-Michel Apathy. C'est tous les jours sur Europe 1 à 7h40.
Europe 1.
Il est 7h43 à suivre, Nico Saliagas.
C'est la question du jour. Que doit faire le gouvernement? Que doit dire Emmanuel Macron au plus vite pour éteindre l'incendie? On va interroger celui qui a inspiré le programme économique d'Emmanuel Macron. Il s'appelle Philippe Aguillon. Il est professeur au Collège de France. Il a beaucoup de choses à dire ce matin. Tout de suite sur Europe 1.
Et vous pouvez continuer à réagir en nous envoyant vos messages avec le hashtag Europe 1. Il est 7h45. Les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le compte à rebours est lancé pour Emmanuel Macron à quelques jours de l'acte 4 des Gilets jaunes. Le chef de l'État a réuni hier soir plusieurs de ses ministres pour tenter de trouver une sortie à la crise. Alors que la colère se propage, les représentants du collectif Gilets jaunes libres n'iront pas à Matignon aujourd'hui. Notez qu'Emmanuel Macron a promis aux forces de l'ordre une prime exceptionnelle. Le Croate Luka Modric, sacré ballon d'or 2018 devant Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, 19 ans. Ce dernier a tout de même remporté le trophée Raymond Coppa qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans.
Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'économiste et professeur au Collège de France, Philippe Aguillon.
Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Vous venez de la gauche, vous êtes l'un de ceux qui a largement inspiré le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Vous avez soutenu le candidat Macron par la suite avant d'exprimer vos craintes en juin dernier dans Le Monde. Eh bien, les chefs de parti ont été reçus à Matignon, réunion interministérielle hier soir à l'Élysée jusqu'à tard. Que peut faire, que doit faire le président pour sortir de cette crise?
Écoutez, d'abord, je pense que le président a mis, et le gouvernement ont mis en chantier des réformes structurelles qu'il fallait faire depuis longtemps. Le passage à la flat tax sur les revenus du capital, la réforme du marché du travail, la réforme de la formation professionnelle, la réforme du système éducatif, ce sont des réformes très importantes. Et il y a d'autres réformes qu'il faut faire maintenant, les retraites, l'assurance chômage et la réforme de l'État. Mmh. Ce sont des réformes indispensables pour nous mettre sur le chemin d'une croissance soutenue et durable.
Les
Parce que la croissance, c'est le seul moyen d'avoir une progression du pouvoir d'achat.
Alors ça, sont les réformes à moyen, voilà. Voire long terme, voilà. Celles qui sont structurelles et nécessaires. Mais comment on les sauve? Par exemple, en rétablissement de l'impôt sur la fortune?
Écoutez, je pense que pour le moment, on a un problème de coût de transition. C'est-à-dire que, par exemple, les retraites, il faut garantir... La réforme des retraites permettra de garantir le pouvoir d'achat des retraites. Mais en attendant, on avait un problème sur les retraites. Il a été traité en disant, on bloque, disons, à 0,3 en nominal les prestations de retraite avec une inflation à 2. Donc, ça veut dire qu'on tape sur les retraités, quoi. Mmh. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière.
C'était une erreur.
Je pense que ça, c'était une erreur. Faire une hausse du prix du gasoil, par-dessus la hausse du prix du pétrole, je pense que c'était une erreur. Les APL, c'était une erreur. Voilà, ça c'est la logique, ce que j'appelle la logique Bercy.
Mais pourquoi
il faut sortir de la logique Bercy?
Parce que c'était très technocratique.
C'est très technocratique et ils se sont dit, finalement, ça passe très bien. Ils avaient le sentiment que ça passerait.
Parce que
quoi.
Popularité, parce
oui,
que jeune président,
parce que popularité,
c'est
popularité. Et puis voilà, à mon avis, on s'est dit sur la taxe carbone, on s'est dit, finalement, Hulot s'en va, et on peut faire d'une pierre deux coups. On fait une hausse de taxe qui rapporte, qui fait entrer de l'argent dans les caisses de l'État et on apparaît écologique. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà.
Philippe Aguillon,
donc il faut faire autre chose.
Il faut faire autre chose. Alors, vous allez nous dire quoi et comment, avec votre regard d'économiste.
Oui.
Vous l'aviez conseillé, vous aviez préconisé un certain nombre de chemins pendant la campagne.
Oui.
Ils ont été gardés ou pas?
Si vous voulez, les réformes structurelles ont été mises en œuvre. Il y a même eu des choses. Le plan pauvreté, le plan santé sont des choses aussi très importantes. Il y a beaucoup d'éléments d'émancipation.
Mais qu'est-ce qui n'a pas été gardé?
Le
volet
plus
social?
Non. Ce qui pas garder, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour des raisons purement budgétaires, sans regarder les conséquences que ça a sur les populations les plus vulnérables. C'est la logique APL.
Précisément.
L'APL, par exemple, vous savez, donc les subventions APL. Ensuite, j'ai donné les retraites ou j'ai donné l'exemple gasoil. On ne se met pas dans les chaussures des gens les plus modestes. Voilà. Et ça, c'est la logique Bercy. Et c'est pour ça que je dis, pendant les périodes de transition, Eh bien, pour financer nos réformes structurelles, il faut accepter de sortir un peu des clous. Mmh. Et moi, je dis surtout, autorisons-nous la possibilité de monter de 3% d'un déficit qui soit, au lieu d'être 3% du PIB, montons jusqu'à un déficit qui soit de 3,5% du PIB. Ça nous dégage des moyens. L'autre moyen, c'est les niches fiscales. Vous savez,
restons un peu sur le 3% du déficit budgétaire qui est imposé par Bruxelles.
Oui.
Tout à l'heure, on en discutait avec Nicolas Barré, le patron du journal Les Échos.
Oui.
Lui, il dit que ce serait tromper les gilets jaunes que de leur faire croire que l'État peut réellement améliorer leur sort en dépensant plus.
Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire qu'il y a un feu à éteindre. Mmh. Et pour éteindre le feu, il ne faut pas s'interdire. Voilà. De dire, voilà, quand Bercy vient à chaque fois dire « moi, je ne peux pas ne pas faire les hausses de taxes », je veux dire « si, vous pouvez ». Voilà, c'est tout. Il y a certaines hausses qu'il ne faut pas faire, voilà. Même si ça veut dire qu'on sort un peu des clous.
Sortir donc des clous
un petit peu, pour faire des réformes structurelles.
D'accord.
C'est ça la différence.
Pour y revenir plus tard, c'est ça.
Monsieur Salvini en Italie, il sort des clous pour ne pas faire de réformes. Et nous, jusqu'à maintenant, on sortait des clous pour ne rien faire du tout. Le deal, hein, il faut un deal, comme on dit, un accord avec
Bruxelles. Une équation presque mathématique.
Une adéquation, c'est de dire, nous faisons des réformes structurelles, elles vont augmenter notre potentiel de croissance. Nous pouvons tirer comme une avance sur l'augmentation de potentiel de croissance pour payer les coûts de transition de ces réformes structurelles.
Donc,
parce que si on ne le fait pas, elles vont dérailler.
Elles vont dérailler. Alors, ce n'est pas parce qu'on va sortir des 3% qu'on va se perdre dans l'Europe. Mais
non.
Peut-être que la puissance, la suprématie, l'image, l'Europe forte que veut incarner Emmanuel Macron...
Mais on l'incarne. On l'incarne parce qu'on réforme.
À Bruxelles, c'est
mais
ça
on incarne l'Europe parce que nous faisons les réformes. Nous sommes un pays qui réforme et qui est une voix dans le monde. Également, on dépense dans la défense. On dépense beaucoup plus que les Allemands dans la défense et on défend toute l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? On a des arguments à faire valoir. Et tout le monde voit, tout le monde a vu les images de la place de l'Étoile. Je veux dire. C'est évident. Et c'est pour financer les réformes structurelles. Et il faut évidemment qu'on soit surveillé là-dessus.
Le patron du MEDEF, ce matin, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, propose un moratoire sur la hausse de la taxation des carburants.
Oui, c'est le minimum. Absolument. Ça, c'est le minimum.
Alors, si cela, par exemple, est annoncé par Édouard Philippe ce soir ou cet après-midi, est-ce que ça peut calmer la colère des Gilets jaunes?
C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire un vrai Grenelle de la fiscalité, du social et de l'environnement.
On a encore le temps ?
Il faut le convoquer tout de suite. Il faut aller très vite. On est comme en 68. Moi, ça me rappelle 68. Et 68, Pompidou a été très intelligent. Et puis, il faut avoir l'intelligence qu'a eu Pompidou à l'époque.
Vous avez parlé au président de la République depuis quelques semaines ?
Non, silence radio complet de l'Élysée et de Batignon.
Vous le regrettez ?
Écoutez, c'est leur problème.
Merci Philippe Agion. Agion, en fait c'est d'origine grecque Agion, c'est pour ça que j'ai vu, je me trompe.
Oui, le nom est un peu grec.
Ben
oui.
Voilà. Merci Philippe Agion d'avoir été avec nous ce matin.
Je
rappelle que vous êtes économiste, professeur au Collège de France et que vous avez participé pendant la campagne à l'élaboration du plan de campagne du président de la République. Merci d'avoir été notre invité.
Bonne journée.
Sur
et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Alors, 7h51.
Précisément, Emmanuel Macron peut-il maintenir le cap des réformes malgré la contestation? En tout cas, le gouvernement souhaite toujours s'attaquer aux pensions de retraite. Cela pourrait être explosif, nous dira Axel de Tarlé dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h55, c'est l'heure du Zoom Echo. Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
La pension de reversion est-elle menacée? Il s'agit de la retraite que touche plus de 4 millions de veufs et veuves en France.
Oui, un sujet donc ultra sensible en plein mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, effectivement, la grande réforme des retraites prévoit de durcir les règles. Alors, on va y revenir. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Quand dans un couple, l'un meurt, l'autre récupère en gros la moitié de sa retraite. Alors 9 fois sur 10, vous savez, il s'agit de femmes, donc de veuves, qui continuent de toucher la moitié de la retraite de leur défunt mari. Eh bien, c'est ce système qui est aujourd'hui remis en cause. Et ce n'est pas une idée en l'air. Vous savez que la Suède a supprimé la pension de reversion en expliquant qu'il fallait encourager le travail des femmes et que ce système de pension de reversion les incitait à rester à la maison. Et figurez-vous que l'OCDE vient de publier un rapport qui va dans le même sens, expliquant que ce système est finalement très injuste, car cela revient à faire payer par les célibataires la retraite des gens mariés.
Mais si on fait ça chez nous aujourd'hui, ce serait la révolution.
Alors oui, alors, donc l'idée, c'est quand même pas de supprimer la retraite de reversion en France, mais de la plafonner. Alors donc, en gros, le principe, une veuve touchera la moitié maximum de ce que touchait le couple avant. Je vous donne un exemple. Si dans un couple de retraités, la femme gagne 1000, l'homme 2000, le plafond sera à 1500 maximum, pas plus. Alors qu'avec le système actuel, une veuve touche 2000 euros. Donc vous voyez, ça permettra de faire des économies. Mais franchement, vu le climat actuel, ça paraît très compliqué pour le gouvernement de s'attaquer aux veufs et aux veuves qui touchent en moyenne, les statistiques le disent, 642 euros par mois.
Cette réforme de la retraite, on l'attend pour...
Oui, l'été prochain, théoriquement, hein, on va voir. Hein. Ça va prendre son temps, je pense.
Le Zoom Echo vous est présenté tous les jours sur Europe 1 par Axel de Tarlet.
Et à 7h57, on passe à la petite histoire du jour, Nikos.
La petite histoire avec Jean-Philippe Ballas. Vous savez quoi ? C'est une lettre un peu spéciale dont vous allez nous parler ce matin.
Oui, une lettre postée par un petit garçon de 7 ans. Il s'appelle Jazz, il est écossais. Et cette lettre, il a voulu l'envoyer à son père, disparu il y a quelques années. Sur l'enveloppe, on remarque tout de suite l'écriture d'enfant malhabile. Vous savez, qui penche un petit peu. Quelques mots en guise d'adresse. Monsieur le facteur, pouvez-vous apporter cette lettre au paradis pour l'anniversaire de mon papa ? Merci. Ben, figurez-vous, les amis, que la Poste Royale Britannique a répondu au petit Jazz. Un document officiel absolument génial. Je vous lis un extrait. « Cher Jazz, je tenais à prendre contact avec toi pour te dire que ta lettre est bien arrivée à destination. Ce fut un véritable défi d'éviter les étoiles et autres objets galactiques sur la route du paradis. Mais je sais combien ce courrier était important pour toi et je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour acheminer tes envois jusqu'au ciel. » Voilà, c'est un employé de la poste locale qui a rédigé ce courrier. La maman du petit garçon s'est empressée de le partager avec ce mot de remerciement. « Rien ne vous obligeait à répondre à mon fils, vous l'avez fait. Vous me redonnez foi en l'humanité. » Quant à Jazz, eh bien vous savez quoi ? Désormais, il veut être facteur. Et chez lui, en Écosse, on dit « postman ».
Ça fait du bien un peu de Beatles à l'antenne ce matin. Jean-Philippe Ballas, la petite histoire qui nous rappelle que nos rêves ne sont jamais tout à fait perdus. Merci Jean-Philippe.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Comme dirait un chanteur de chez nous, je reviens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
Mmh. Ah, magnifique chanson.
Francis Cabrel,
ouais. Ouais, oui. Cabrel.
Bravo, j'aime bien quand vous êtes poète. Mais le ciel, il nous dit quoi aujourd'hui ?
Si je reviens du ciel et entre nous, les étoiles ne parlent que de ciel couvert. Mais c'est vrai que ce ciel, il va s'éclaircir dans le courant de la journée. C'est-à-dire que nous aurons de plus en plus de soleil, mais sous forme vraiment d'éclaircies furtives. Cela dit, ça n'est pas grave dans la mesure où les températures sont douces. Et chers amis, entre 11 et 19 degrés sont les températures du jour, un peu comme hier. Donc nous ne souffrirons pas du froid. Ce sera la semaine prochaine pour le froid. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, certaines contrées auront même pas mal de soleil. Tout le sud-ouest, le bassin méditerranéen, les Alpes, le nord, la Picardie, les Ardennes, la Lorraine. Autant de régions où les éclaircies seront très belles. Mais partout ailleurs, il faudra compter avec des passages nuageux et peut-être un petit peu de pluie, des pluies qui sont en train de disparaître, de se disséminer à travers la France depuis maintenant une demi-heure. Et j'ai l'impression qu'elles vont quitter le pays, elles vont quitter le pays avant midi, de sorte que nous aurons quand même un temps que l'on va qualifier de clément.
Merci Laurent Cabrol. Vous prenez la route, vous êtes à la maison, vous avez suffisamment d'essence. Attention, ce matin, des pénuries de carburant sont attendues. On vous dit tout dans le journal de 8h.
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1 et bienvenue si vous nous retrouvez. Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Saliagas.
Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Le gouvernement va-t-il être contraint de céder en race campagne un moratoire sur la hausse des taxes affectant le carburant ? L'idée est librement évoquée dans la majorité, comme à l'instant par le délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini. Le Premier ministre va très rapidement annoncer des mesures fortes pour calmer les gilets jaunes. C'est la hantise de tout gouvernement. La jeunesse va-t-elle entrer dans la danse ? Des dizaines d'établissements scolaires ont été bloqués hier, parfois dans la violence. L'un des syndicats lycéens appelle à la révolte générale. Et puis, Francis Holm est de retour aux assises. Le routard du crime est jugé en appel à partir d'aujourd'hui pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz.
Europe 1.
Je ne suis pas fait pour diriger par temps calme. Mon prédécesseur l'était, mais moi... Je suis fait pour les tempêtes. Cette phrase est signée Emmanuel Macron, elle date d'il y a un an. Le président de la République a-t-il des pouvoirs prédictifs ? En tout cas, nous y sommes en pleine tempête et nous allons voir dans les prochaines heures si le capitaine tient toujours la barre. Le chef du service France nous a rejoint. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour David.
Cette fois, Emmanuel, le gouvernement va bouger. Cela semble inévitable.
Oui, hein, c'est la fin d'un tabou. L'idée d'un moratoire sur les taxes sur l'énergie est bien sur la table. Un élément qui ne trompe pas le nouveau patron de La République En Marche vient de le demander officiellement. Mais attention, il y a trois semaines, une telle mesure aurait permis de sortir de la crise. Mais aujourd'hui, selon un ministre de premier plan, ça ne sera pas suffisant. En plus de cette mesure, l'exécutif planche donc actuellement sur une autre mesure forte qui marquerait les esprits, comme par exemple accélérer sur les baisses d'impôts ou peut-être augmenter la prime d'activité. Quelle qu'en soit la forme, il s'agirait d'un geste pour le pouvoir d'achat. Signe en tout cas qu'il faut apporter une réponse très rapidement. Une réunion s'est tenue hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Tous les ministres concernés par cette crise inédite, Bruno Le Maire à l'économie a même dû rentrer plus tôt de Bruxelles pour en être. Le Premier ministre était bien évidemment là aussi.
Et alors qui va parler, Emmanuel? Il n'a échappé à personne qu'Emmanuel Macron n'a rien dit depuis samedi.
Effectivement, mais l'Élysée a fait savoir dès hier que ce serait le Premier ministre qui ferait les annonces à l'issue des consultations qu'il mène. Comme un débat est prévu demain avec les députés à l'Assemblée sur ce thème, on pense que des annonces peuvent arriver dans la journée. Et laisser Édouard Philippe en première ligne, c'est quand même une manière pour Emmanuel Macron de ne pas griller une cartouche de plus après son discours de la semaine dernière qui a eu l'effet, il faut quand même bien le reconnaître, d'un coup d'épée dans l'eau.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1.
Et on verra ce que le gouvernement va annoncer, mais une chose est sûre, la pression monte de toutes parts, David.
Oui, avec par exemple cette initiative en Ardèche, les élus de ce département rural ont solennellement voté hier soir une motion pour un gel de la fiscalité des carburants, du gaz et de l'électricité. Nous sommes en ligne avec le président socialiste du conseil départemental de l'Ardèche, Laurent Huguetto. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, monsieur Huguetto, soyons très précis, il s'agit là d'un vote à portée symbolique. Les départements n'ont pas le pouvoir de définir la fiscalité sur le carburant, on est bien d'accord?
On est bien d'accord. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est que simplement le message soit entendu, que les violences qui s'exercent ici et là, y compris en Ardèche, ne se déroulent plus. Mais cette motion, c'est aussi, je crois, une motion d'espoir. Ça peut être le cadeau de Noël de fin d'année. Et ensuite, avec des propositions claires sur des états généraux de la ruralité, une répartition plus juste des moyens donnés au territoire et puis un débat citoyen participatif qui crée le dialogue qui est rompu.
Vous qui êtes au contact du terrain, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, un moratoire sur la hausse des taxes suffirait à calmer la colère qui s'exprime dans le pays?
Non, je ne crois pas que c'est un préalable. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on donne, que le gouvernement donne des signes d'apaisement sur ce conflit, parce que ça va dégénérer. On sent la violence qui commence à monter. C'est la première fois que des gilets jaunes viennent hier dans une maison du département pour venir exprimer leur colère. Mais ils viennent aujourd'hui, ils se retournent vers les territoires, vers les collectivités départementales, parce qu'ils attendent des réponses. Et les réponses ne viennent pas. Et le manque de réponses, ça crée cette violence qui commence à monter. Et nous, on le sent en Ardèche.
Merci Laurent Huguetto d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de l'Ardèche.
Et nos auditeurs s'interrogent ce matin, notamment sur les réseaux sociaux. Comment le gouvernement peut-il réussir à sortir de cette crise, surtout sans interlocuteur identifié chez les Gilets jaunes?
Oui, c'est en effet ce qui complexifie l'équation. On se souvient tous du fiasco vendredi dernier à Matignon. Le cauchemar semble recommencer pour Édouard Philippe. Le Premier ministre avait invité une délégation des Gilets jaunes libres, ceux qui avaient signé une tribune dans le JDD en faveur du dialogue. Sauf qu'ils se décommandent, ils se sont tous décommandés les uns après les autres. Résultat, on apprend à l'instant que Matignon annule officiellement cette rencontre. Pour comprendre comment nous avons abouti à cela, écoutez les explications d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Comme un mauvais film qui se répète à Matignon, une nouvelle rencontre programmée qui tourne court avant même d'avoir commencé. Dans l'entourage du Premier ministre, on le répète inlassablement, la porte reste ouverte, dit-on, avant de rappeler que tout de même, ce sont les Gilets jaunes eux-mêmes qui avaient demandé à être reçus. Oui, mais voilà, certains membres du groupe des Gilets jaunes libres refusent, disent-ils, d'être des marionnettes de l'exécutif. D'autres assurent avoir reçu des menaces de mort de la part de Gilets jaunes radicalisés. Preuve que certains ne veulent pas parler, ils veulent juste la fin de la République, dénonce un proche d'Édouard Philippe. Preuve aussi que sans représentants, sans structure, le mouvement des Gilets jaunes reste insaisissable. De quoi contraindre le gouvernement à une forme d'absence de dialogue.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et alors, l'agence France Presse vient à l'instant de confirmer ce que nous disait Emmanuel Dutheil il y a quelques instants au début de ce journal. Édouard Philippe va bien annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. C'est clairement, Nikos, un recul pour le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Et autre question qui fait peut-être frémir le gouvernement, David, la jeunesse va-t-elle se joindre au mouvement des Gilets jaunes?
Oui, 188 lycées sur les 4000 et quelques comptes la France ont fait l'objet de blocages hier. Les syndicats lycéens s'engouffrent dans la roue des Gilets jaunes pour contester la réforme de l'enseignement secondaire. Ces actions d'hier ont bien souvent été accompagnées de violences. L'un des responsables syndicaux lycéens a même appelé à la révolte générale. Rejoignons tout de suite Aude Vernuccio. Vous êtes, Aude, devant le lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers, où hier, certains jeunes ont dégradé le mobilier urbain et s'en sont même pris aux forces de l'ordre.
Oui, et la rue porte encore les traces de ce déchaînement de violence. 200 jeunes qui ont hier matin caillassé des abribus, pillé un commerce, incendié une voiture avant de lancer des projectiles sur les pompiers et un véhicule de police. Même scène devant les lycées du Val d'Oise ou encore à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse. Et la mobilisation va se poursuivre ce matin. Une centaine de blocages sont prévus d'après les syndicats lycéens qui veulent faire vivre le mouvement jusqu'à vendredi, jour de mobilisation nationale. Alors certains soutiennent ouvertement les gilets jaunes, d'autres saisissent simplement l'occasion car la colère ne s'est jamais éteinte, me raconte par exemple un lycéen. L'UNEL, l'Union Nationale Lycéenne, espère par exemple convaincre les étudiants à bloquer les universités dans les prochains jours.
Merci Aude Vernuccio, vous étiez en direct pour Europe 1 du lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le routard du crime est de retour aux assises. Procès en appel, 32 ans après les faits de Francis Holm pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. A tout de suite dans le journal de 8h avec David Doucan.
Il est 8h09, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan et Francis Holm, à nouveau devant une cour d'assises à partir d'aujourd'hui.
Oui, il est jugé en appel, 32 ans après les faits pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Deux garçonnets âgés de 8 ans avaient été sauvagement assassinés à coups de pierre sur un talus SNCF. Vous vous en souvenez, c'est le crime pour lequel Patrick Dils avait été condamné, puis innocenté et libéré après 16 ans de prison. Alors 3 semaines de procès sont prévues à partir d'aujourd'hui pour essayer de faire la lumière, ou en tout cas de raconter cette incroyable saga judiciaire. Salomé Legrand.
Ils seront une centaine de témoins à défiler à la barre pour retracer 30 ans de rebondissements judiciaires. Pourtant, dès les premiers jours, les enquêteurs tenaient un coupable, Patrick Dils, désigné par un témoin anonyme. L'adolescent de l'époque passe aux aveux à l'issue d'une garde à vue aux méthodes contestées. Quand il se rétracte, il est trop tard. Il faut attendre 16 ans pour le voir acquitté, remis en liberté. On est en 2002. C'est la présence de Francis Holm sur les lieux le jour du double meurtre qui a permis ce revirement. L'insondable routard du crime est originaire du coin. Il reconnaît être passé à vélo près du talus SNCF et avoir reçu des cailloux jetés par les enfants. Fidèle à son style, il ni les faits, fournit quantité de versions différentes, mais il délivre aussi de nombreux détails troublants. Des enquêteurs ont reconnu à Montigny-lès-Metz sa quasi-signature criminelle. Francis Holm a déjà été condamné pour 9 meurtres. Chaque fois, il s'en est pris à des inconnus, toujours avec une violence inouïe. Mais en première instance, il a répété jusqu'à l'usure « Montigny, c'est pas moi ».
Salomé Legrand, du service police-justice d'Europe.
Europe 1 revient maintenant sur un événement qui avait marqué les esprits, c'était il y a 1 an, un incendie qui ravageait l'hôpital de Pointe-à-Pitre.
Oui, et dans la foulée, nous vous révélions de graves dysfonctionnements. Et suite à ces éléments d'information, le préfet, le directeur de l'autorité régionale de santé et celui de l'hôpital ont tous été limogés et remplacés. Alors question, la situation s'est-elle améliorée 12 mois plus tard? Pas vraiment, comme le démontre ce reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe, Mathieu Bock.
Sur le parking, les tentes blanches de l'armée ont disparu. À la place, des ambulances se succèdent pour déposer leurs malades, jusqu'à 140 par jour. À l'intérieur des urgences, 4 fois plus petites qu'avant l'incendie, une quinzaine de personnes attendent sur un brancard. Une situation inévitable pour Pierre Alphonse, le cadre du service.
Lundi soir, à 18h30, il y avait 12 véhicules de pompiers qui étaient bloqués devant les urgences parce que les patients qui étaient aux urgences depuis dimanche soir, qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir les mettre dans un autre service. Donc les pompiers sont obligés d'attendre qu'un brancard se libère.
Les équipes médicales font ce qu'elles peuvent mais sont souvent débordées. Aux urgences, il y a 9 médecins alors qu'il en faudrait 27. Mais depuis l'incendie, la population doute de son CHU. Sabrina a perdu son père, admis pour une péritonite, sans avoir la moindre explication.
Mon père a été admis à 2h du matin. On a attendu jusqu'à 5h de l'après-midi avant qu'il soit enfin examiné. Après qu'il ait été admis dans ce service pour faire ce scanner, il nous annonce que notre père est décédé, chose qui était totalement incompréhensible. Si on l'avait examiné plus tôt, est-ce que quelque chose aurait pu être fait? Ça, on ne le saura jamais.
Et les Guadeloupéens vont devoir s'armer de patience puisque le nouveau CHU, dont la construction vient à peine de débuter, sera livré en théorie dans 4 ans. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1.
C'était le journal de David Doucan. Merci David, bonne journée.
Bonne journée.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Et les 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Et la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est tout l'enjeu de cette conférence sur le climat qui se tient à Katowice en Pologne, Vincent.
Oui, Katowice, c'est la Pologne des mines de charbon, la capitale de la Silésie et de l'architecture en clapier communiste. À côté, les corons français, c'est la Côte d'Azur. C'est là que se tient la COP24 après la COP23 à Bonn qui n'a servi à rien et avant la COP25 dont personne ne sait où elle plantera ses tréteaux parce que le Brésil n'en veut plus. À Katowice, le secrétaire général de l'ONU était hier au bon endroit pour pousser un lamento planétaire. Antonio Guterres sonne le glas. Pour beaucoup de gens, gémit-il, c'est une question de vie ou de mort. Et nous avançons toujours si lentement et dans la mauvaise direction. Alors on ne va pas pinailler, dire qu'il vaut mieux avancer lentement quand c'est dans la mauvaise direction, mais on comprend l'idée. Les pays riches n'en font pas assez pour aider ceux du Sud et tous ensemble contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est l'objectif de l'accord de Paris et la COP24 doit fixer les règles pour l'appliquer. La Banque mondiale promet 200 milliards de dollars. On se dit c'est bien. En fait, c'est rien. Le représentant des pays les plus pauvres prétend qu'il faudrait des milliards de milliards de dollars.
On comprend pourquoi Antonio Guterres est totalement dépité. Quoi.
Oui, il est seul au monde à Katowice, avec une petite poignée de chefs d'État et de gouvernement. La France était le seul membre prévu du G20, mais Édouard Philippe est retenu à Matignon justement par des gens qui refusent qu'on leur fasse payer la transition énergétique à la pompe à essence. Alors, la France se voudrait leader sur le dossier, mais elle ne respecte aucun de ses objectifs. Les populistes au pouvoir en Pologne, c'est affreux, quelle horreur les populistes. Les populistes sont plus habiles. Ils accueillent la COP24 dans leur bassin houillé et la déclaration de Silésie qu'ils préparent réclame une transition juste qui reconnaît les défis écologiques, mais qu'il faut aussi un avenir décent aux travailleurs touchés par la transition. Conclusion. À Katowice, il y a peut-être des cathos vicieux, mais il n'y a pas de gilets jaunes.
Vous êtes en forme ce matin, Vincent Hervouet, sur Europe 1 pour le point de vue international.
Europe 1, il est 8h15.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité, ma chère Audrey?
Eh bien, tel un gilet jaune, Nikos, il a refusé de discuter avec Édouard Philippe hier, quand celui-ci a refusé que l'entretien soit filmé en direct. Ouf, nous sommes filmés ce matin et diffusés en direct, donc il devrait rester normalement. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, sera avec nous. On parlera notamment du moratoire sur les hausses des taxes de carburant que Édouard Philippe va annoncer aujourd'hui.
A tout de suite, Audrey Crespo-Mara. On vous accompagne jusqu'à 9h. Il y aura aussi à 8h45 Nicolas Canteloup.
Il est 8h17, Nicolas Saliagas.
Le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Il y a quelques jours, un gilet jaune qui devait rencontrer le Premier ministre a coupé court à la réunion parce qu'Édouard Philippe refusait qu'elle soit diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Hier, vous avez fait exactement pareil. Vous êtes devenu un vrai gilet jaune?
Non, j'ai simplement voulu dire au Premier ministre, avec qui j'ai eu un échange cordial d'ailleurs au début, qu'au-delà de la crise du pouvoir d'achat, et on va en parler j'espère parce que c'est l'essentiel, il y a une crise de notre démocratie, il y a une crise de confiance absolument effrayante entre le peuple français et ses élus, et il y a un besoin de transparence, de fonctionner autrement, et je voulais, et je pensais d'ailleurs qu'il accepterait. Je voulais
non, vous savez qu'il refuserait, il avait refusé non, avant vous, il n'y avait pas de raison qu'il accepte.
Mais, pourquoi pas. Il faut changer, il faut que les Français comprennent que les hommes politiques ne sont pas sur une autre planète, qu'on peut échanger. Et comme je lui remettais des propositions concrètes pour sortir de la crise, j'avais envie qu'elles soient connues des Français. On allait parler des Français, on pouvait parler devant eux sans avoir l'air de faire des manœuvres d'appareil politique. Ce n'est pas une question d'appareil politique.
Il y avait un peu de
politique.
Cinéma là-dedans quand même.
C'est une question de confiance des Français. Je vous assure, si on ne renoue pas la confiance, on ne redressera pas la France sans les Français.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur les hausses des taxes des carburants, puisque c'est là l'essentiel, ce sont les sources gouvernementales. Et c'est ce que demandait l'opposition et même une partie de la majorité, hein, François Bayrou notamment. Ça va dans le bon sens, un moratoire sur les hausses des taxes des carburants?
Enfin, c'est ce que je me demandais il y a 3 semaines, enfin il y a même 6 mois quand elles ont été lancées. Enfin, alors moratoire, ça veut dire quoi? Si c'est pour sauver la face, c'est une annulation. Ou alors est-ce que c'est pour, tromper à nouveau les Français et revenir dans 3 mois? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que je pense qu'aujourd'hui, la crise est tellement grave qu'un responsable politique ne doit pas jeter de l'huile sur le feu. Si c'est un moratoire qui aboutit sur une annulation et ensuite sur une réorientation du cap économique et social pour à la fois plus de justice et plus de progrès partagé, ce sera positif. Si c'est une manœuvre dilatoire, les Français se réveilleront parce qu'ils sont à vif.
Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour calmer la colère des Gilets jaunes ?
Mais les Gilets jaunes, c'est le peuple français. Il n'y a pas la colère des Gilets jaunes, il y a la colère d'un peuple, surtout ceux qui travaillent.
Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant ce
moratoire ? Je ne crois pas aujourd'hui parce que le gouvernement a trop tardé. Mais moi, je ne vais pas être dans la critique permanente. Je dis que c'est un premier pas, je veux voir les suivants. Et c'est l'objet de la proposition de loi que je dépose aujourd'hui avec le sénateur Masson. Pour qu'il y ait d'autres mesures, je pense à une mesure fondamentale qui est la réindexation des pensions de retraite et des prestations familiales sur l'inflation qui a été annulée par le gouvernement et c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des retraités était sciemment réduit chaque année.
Alors, il faut revenir là-dessus. Ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, donc, Édouard Philippe devrait annoncer ce moratoire et il y aura d'autres décisions. Édouard Philippe va les annoncer, ces décisions, devant les députés de La République En Marche. Est-ce que ça vous surprend, ce soit uniquement devant ces députés?
Je préférerais que ce soit devant tous les députés, mais bon, écoutez, on va pas... Moi, je ne veux pas polémiquer sur des détails.
Autre information ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, la réunion qui devait avoir lieu aujourd'hui entre les Gilets jaunes et Édouard Philippe est annulée, on l'a appris ce matin, pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous ne sous-estimez pas la violence de ce mouvement?
Non. Écoutez,
il y a des menaces de mort sur les représentants des Gilets jaunes, sur leurs enfants aussi.
Écoutez, bien évidemment, toutes ces menaces, toute cette violence est insupportable. Mais je veux dire que la plupart des Gilets jaunes que j'ai rencontrés, que les Français connaissent, artisans, femmes, mères de famille, retraités, auxiliaires de vie, ouvriers, commerçants, sont des gens profondément pacifiques.
Sur les 380 personnes, je vous donne un chiffre quand même, sur les 380 personnes interpellées ce week-end, la plupart sont des hommes de 25-50 ans, maçons, bouchers, intérimaires, pères de famille, venus de province et sans aucun passé judiciaire.
Ce qui montre bien la
désespérance. Encore une fois, est-ce que vous ne sous-estimez pas la violence de ce mouvement?
Écoutez,
on ne peut pas mettre les casseurs d'un côté et les gilets jaunes de l'autre.
Est-ce que l'équipe de France de football était violente? Parce qu'après la victoire de la Coupe du Monde, il y a eu des violences dans Paris. Non. Arrêtons. Bien évidemment que dans tout mouvement puissant d'insurrection, il y a des actes de violence. Simplement, ce que je veux dire, c'est que des personnes qui n'avaient jamais manifesté, qui travaillent, qui veulent la récompense du mérite, qui ne veulent pas être accablées de taxes, qui ne veulent pas d'injustice à ce point, ne sont pas violentes. Et je peux vous dire, pour les avoir rencontrées, être sous la pluie, dans le froid, des jours et des jours, des nuits et des nuits, parce que simplement, on ne peut plus vivre de son travail, parce que les taxes ont tellement augmenté qu'on ne peut plus se chauffer l'hiver. Ce n'est pas un mouvement qu'il faut prendre à la légère. Et ce ne sont pas 300 casseurs qui peuvent décrédibiliser des millions de Français.
Nicolas
Je veux
Dupont-Aignan,
qu'on revienne. Et si le gouvernement, pardonnez-moi Audrey Crespo-Mara, avait compris ça en allant écouter les Français et en cessant de les mépriser, on n'en serait pas là. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on récompense le travail en France.
Alors,
et qu'on taxe davantage les produits importés qui polluent, qui la concurrence déloyale. Car le problème de fond, c'est qu'il y a de moins en moins de bases taxables en France et que les Français qui bossent en France sont surtaxés. Il faut donc revoir, au-delà du moratoire, de l'annulation des taxes, j'espère que ça va durer, il faut revoir le système économique dans lequel nous vivons. Parce que sinon, l'appauvrissement collectif des Français va continuer. Il faut mieux partager la richesse,
Nicolas,
mais il faut créer de la richesse.
Vous êtes l'une des mesures les plus populaires chez les Gilets jaunes. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune. J'imagine que vous êtes pour ?
Je suis pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais avec une condition que j'avais proposée à la présidentielle. C'est qu'on détaxait à 100% le montant de l'impôt sur la fortune quand il était investi dans une PME française sur le sol français.
En tout cas, le gouvernement devrait rétablir l'impôt sur la fortune, selon vous.
Il devrait trouver un compromis, un intermédiaire. Tout l'enjeu de la France, c'est d'arrêter de voir l'évasion fiscale, 80 milliards par an, d'arrêter de voir des entreprises qui ne payent pas d'impôts, et de l'autre, la surtaxation de ceux Français qui créent de la richesse en France.
Nicolas
c'est ça
Dupont-Aignan,
l'enjeu du pays. Veut dire changer complètement la politique économique d'Emmanuel Macron.
On l'entend, vous êtes très rarement d'accord avec le président, mais quand il offre une prime exceptionnelle aux forces de l'ordre qui ont affronté les Gilets jaunes ce week-end, cette fois vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, mais je remercie d'ailleurs les forces de l'ordre à qui on donne un travail considérable et très difficile, et on peut remercier les forces de l'ordre. Mais vous savez, beaucoup de forces de l'ordre mettaient un gilet jaune devant leur pare-brise parce qu'eux aussi souffrent des inconséquences du gouvernement. Donc ils n'ont pas besoin de charité, ils voudraient avoir des effectifs, des places de prison pour mettre les voyous et qu'on arrête avec une immigration folle. Il y a le traité de Marrakech qui va être signé bientôt. C'est un problème majeur qui est devant nous, une submersion migratoire. N'oublions pas les autres sujets.
Il ne parle pas des migrants, hein, les gilets jaunes. Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez relancer.
Il y a un problème de coût des migrants. Et si on ne peut plus donner d'argent à nos concitoyens qui travaillent, c'est parce qu'aussi on en donne beaucoup à des clandestins qui ne travaillent pas.
Vous voulez relancer les référendums d'initiative populaire. Est-ce que vous en feriez un aujourd'hui? Et quelles questions précises vous poseriez aux Français?
Il y a tellement de référendums d'initiative populaire à
faire. Une question que vous poseriez
aujourd'hui. Le premier, c'est sur, par exemple, les 9 milliards nets. C'est-à-dire chaque année que nous donnons à l'Union européenne en pure perte, j'aimerais un référendum là-dessus pour les réaffecter sur notamment les retraités, sur les prestations familiales pour que les familles qui ont tant de mal à élever leurs enfants puissent leur offrir un cadeau à Noël. Parce que ça, c'est un enjeu important, permettre aux familles de vivre de leur travail. Vous savez, cette crise, c'est une crise de dignité. Et j'aimerais que le monde politique, et pas que le monde politique, comprenne le besoin de dignité du peuple français. Nous avons un grand peuple qui peut faire des merveilles si on lui redonne une vision, un espoir, au-delà des mesures concrètes, une espérance pour la France.
Merci Nicolas Dupont-Aignan.
L'interview politique était menée et présentée par Audrey Crespo-Mana. Audrey Crespo-Mara. J'ai confondu deux lettres, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tous les jours à 8h15, j'ai été charmé. Voilà.
Tous les jours.
À suivre la revue de presse. Et si la France des Gilets jaunes était la France de Johnny, s'interroge David Abiker. Et puis à 8h38, je passerai un coup de fil à Vianney, le chanteur qui devient acteur aux côtés de Fanny Ardant. 8h45, le cadeau de l'imitation, Nicolas Canteloup.
Nous sommes le mardi 4 décembre, il est 8h30, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin dans Ouest France, vous avez une bande de copains, ils sont en Mayenne, Baptiste, Bertrand et quelques autres, ils sont sur un échafaudage. Ils mettent la dernière main à une statue géante de Johnny Hallyday, dont on célébrera demain le premier anniversaire de la disparition. Ouest France nous apprend qu'à la veille de cet anniversaire, plusieurs statues du chanteur seront dévoilées un peu partout en France. Ça m'a fait penser à un papier dans le JDD avant-hier. Un ministre resté anonyme a comparé, pour les minimiser, les manifestations parisiennes des Gilets jaunes aux millions de fans de l'idole sur les Champs-Élysées. Bien sûr, on ne compare pas une manif et un adieu. En revanche, qui oserait dire que cette France en jaune n'est pas un peu celle de Johnny? Il y a quelques jours, dans Causeur, Pierre Bachelot osait cette comparaison, j'ouvre les guillemets. Et si la rue de décembre 2017 était celle de novembre 2018? Par bien des aspects, la France des Gilets jaunes ressemble à la France de Johnny, écrit-il. Populaire, méprisée, elle aime la clope et la bagnole. En un mot, la liberté, je ferme les guillemets. Et souvenez-vous, il y a un an, le président de la République avait su la comprendre, cette France meurtrie, cette France en deuil. Il avait trouvé les mots sur le parvis de la Madeleine, face au premier sifflet des fans de Johnny. Il avait su la toucher au cœur, cette France-là. Un an plus tard, il lui faut calmer la colère et les cris, non pas avec des mots, mais avec des solutions.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie.
L'idole des jeunes, car ce matin, ils font la une de nombreux quotidiens, David Abiker.
Eh oui, les jeunes, c'est Libération qui donne le ton au lendemain du blocage hier de 150 établissements. Le quotidien qui se demande si on ne va pas passer des gilets jaunes aux gilets jeunes, jeu de mots comme les aime Libération. Et maintenant, les lycéens s'exclament, le progrès. La fièvre jaune gagne les lycéens, s'exclame Varmatin également. Oui. À la une du Républicain Lorrain, les lycéens après les gilets jaunes. Et bien sûr, dans Libération, comme dans le Figaro, on compare mai 68 à décembre 2018. Mais pour le Figaro, mai 68, c'était la France sans nuit. Décembre 2018, ce serait plutôt la France en a ras-le-bol.
La véritable inquiétude, en fait, c'est l'économie.
C'est le réveillon économique qui est gâché pour l'opinion, idem pour les échos. Et le Midi Libre vous donne ce matin un exemple très concret. Avec, dans le Gard, l'usine de production d'aliments pour animaux, Royal Canin. Son directeur évalue les pertes à près de 10 millions d'euros, une baisse d'activité de 40% et le chômage technique pour une quarantaine de salariés. Dans les Échos, on redoute un scénario à l'italienne et l'option du déficit budgétaire qui financerait les mesures en faveur des Gilets jaunes. Ce n'est pas ce que redoute le patron du MEDEF ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Pour sortir de la crise, ce n'est pas une main tendue que propose Geoffroy Roux de Bézieux, c'est un bras, un moratoire sur les carburants, de nouvelles indemnités kilométriques, une hausse du SMIC assortie d'une nouvelle baisse des charges et de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises et les particuliers. C'est Noël. Et
en attendant le Père Noël, le Parisien aujourd'hui en France, David Abiker, nous annonce le retour de Dominique Strauss-Kahn.
Rien à voir avec la crise des Gilets jaunes. C'était prévu depuis longtemps, mais l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a lancé hier un club d'élaboration d'une pensée progressiste. S'agit-il d'un retour en politique? Pas du tout, se défend-il avec une phrase assassine.
fascine. Rien ne m'agace plus que le maintien de sexagénaires qui ont du mal à quitter la scène. François Hollande appréciera. Et puisqu'on parle de retour, un mot pour évoquer le retour d'une vieille affaire. Souvenez-vous du mur des cons, ce tableau recouvert de photos de responsables politiques et économiques, plutôt libéraux, plutôt de droite, plutôt sociodémocrates, trouvés dans le local du syndicat de la magistrature assorti de la mention « Avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y est pas déjà ». Eh bien, le procès de la présidente de l'époque, la présidente du syndicat, démarre aujourd'hui, nous rappelle ce matin Sud-Ouest, une maigre consolation pour les élites et la classe politique de l'époque qui sont aujourd'hui épinglées, brocardées par les gilets jaunes.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Dans Sud-Ouest également, non pas des gilets jaunes, mais des foulards rouges, symbole des fêtes annuelles de Bayonne au Pays Basque. Bayonne qui tire un bilan positif de la première édition payante des festivités. La ville a réduit la facture pour le contribuable en vendant 8 euros 167 000 bracelets aux touristes. Elle va même reconduire l'expérience avec l'objectif d'augmenter sa marge pour améliorer la qualité des services rendus pendant les festivités. Comme quoi, on peut en même temps réduire la facture pour le contribuable et faire payer pour un service. J'ai dit en même temps.
Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais.
C'est bon, c'est
plaisir. C'est la peña, c'est la peña bayonna.
Je salue tous les auditeurs du Pays Basque ce matin sur Europe 1. C'était la revue de presse avec David Abiker tous les jours à 8h30.
Et il est 8h35.
À suivre, c'est votre journée. On va passer un petit coup de fil à Vianney, le chanteur, qui devient acteur aux côtés de Fanny Ardant dans le film Ma mère est folle, qui sort demain au cinéma, 8h45. Nicolas Canteloup et la revue de presque. Bonne matinée à tous sur Europe 1.
Il est 8h38. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le gouvernement qui cède aux gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe s'apprête à annoncer un moratoire de plusieurs mois sur la hausse de la taxe sur les carburants. Il le dira ce matin aux députés de la majorité. Première réaction d'une des porte-paroles des gilets jaunes, Jacqueline Moureau.
Je pense qu'enfin on va dans le bon sens. Je suis heureuse que le gouvernement enfin réagisse à tout ce qui s'est passé, à toute cette colère. Peut-être nous ont-ils entendus. Donc maintenant, ce qui est déterminant, c'est la durée du moratoire et les annonces qui l'accompagnent.
Est-ce que ça peut mettre fin au mouvement des gilets jaunes ?
Bien, ce sont les gilets jaunes eux-mêmes qui vont décider d'arrêter ou de continuer. Mais je pense quand même qu'il faut savoir raison garder dans ce pays. Ça devrait pouvoir au moins apaiser grandement toute cette colère. Ça veut dire qu'on aurait été entendus.
Réaction recueillie il y a quelques minutes par François Geffrier. Des gilets jaunes qui ne seront pas reçus à Matignon cet après-midi. La réunion est officiellement annulée. Ils avaient décliné l'invitation face aux menaces d'autres membres du mouvement. Les opérations de blocage se poursuivent dans plusieurs dépôts pétroliers. Conséquence, une pénurie de carburant dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan.
Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée.
Tous les matins, on passe un petit coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Et demain sort au cinéma un film avec Fanny Ardant et Vianney. C'est Vianney qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Nikos.
Vous êtes où ce matin? Qu'est-ce que vous faites?
J'étais dans mon lit il y a 10 minutes là. Et puis je suis content de vous entendre. Je suis tranquillement chez moi. J'ai d'autres émissions après, mais je commence ma journée avec vous, donc la vie est belle.
Bon, c'est une semaine un peu tendue socialement. On en parle depuis plusieurs jours. Mais il y a la vie culturelle qui continue. Et votre film qui sort demain, qui s'appelle Ma mère est folle, c'est votre premier film en tant que comédien. Vous avez pris des cours ou vous êtes allé à l'instinct?
Non, voilà, à l'instinct ou à l'arrache, comme disent d'autres, mais moi j'ai préféré me fier à ce que j'ai au fond de moi, et les cours ça me réussit jamais trop, même en musique et tout, j'ai jamais trop fait ça.
Ouais, vous êtes un autodidacte dans tout, mais bon, quand on est à côté de Fanny Ardant, qui joue une mère un peu folle, atypique, fantasque, qui va vous emmener dans un voyage aux Pays-Bas, avec de la drogue dans la voiture, enfin une histoire totalement rocambolesque, mais tendre, quand on est à côté d'une star, d'une actrice de ce gabarit, je pense qu'on est imprégné et on apprend aussi.
Ouais, ça c'est sûr en fait. Moi j'ai énormément observé Fanny et puis elle a été très très généreuse de sa personne et de son talent pendant le tournage. Donc non, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de vivre une première expérience avec elle. Ça c'était dingue.
Mais ça vous plaît de faire l'acteur? Ça change de la chanson?
Ouais, ça change carrément. En fait, disons que le parallèle c'est qu'un peu comme sur scène, à un moment, on se jette, quoi. Et quand on joue, on se jette, on s'oublie soi. Et on donne ce qui vient, ce que l'émotion, ce que le texte inspire, voilà, ce que le moment inspire. Donc il y a ce point commun-là, mais c'est quand même très différent de jouer à être quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire ça, depuis le collège où j'ai fait du théâtre pendant 2 mois. Ouais. Voilà, donc, c'était génial.
Mais vos chansons sont déjà des petites histoires. Hein. Vous racontez des petites scénettes de vie. Ça vous tenterait d'écrire votre propre film un jour, Vianney?
Ah, ce serait chouette. Ouais. L'écriture, j'adore ça. Je ne suis pas fait pour les romans. J'ai essayé d'en écrire depuis tout petit plusieurs. Mais c'est pas mon format. Mm-hmm. Mais le film, ça pourrait être mon format, ouais. Ça, j'aimerais bien.
En tout cas, on vous le souhaite. Vous êtes au cinéma à partir de demain dans une comédie très réussie. Et vous tenez vraiment, vraiment la barre face à Fanny Ardant. C'est votre premier rôle au cinéma Vianney. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Ça s'appelle
Merci,
Ma mère est folle.
Europe 1. Il est 8h41. Nico Saligas à suivre.
On va suivre un autre fou ce matin. Nicolas Canteloup et sa revue de presque, avec Julie, juste après ça. Bonne matinée à tous. Nicolas Canteloup et la revue de presque, et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu, c'est à vous Nikos.
Et oui, salut à tous, bonjour Julie, salut l'actu surround du morning, c'est bien sûr, ce fut l'interview... L'interview réussie du député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, chez Audrey Crespo-Mana.
C'est tout ce que tu retrouves de 2 heures de matinale. Il retient que ça. Ouais. Merci.
Castorama. Audrey Castorama. Bref, l'actu, ce sont bien sûr les gilets jaunes qui ont décliné l'invitation de Matignon. Mais en même temps, entre se les cailler à bloquer une autoroute et boire le thé avec Édouard Philippe, on aurait tous choisi d'attraper la grippe, n'est-ce pas? Après les gilets jaunes, ce sont maintenant les boutons blancs. Oui, les lycéens qui prennent le relais, ils ne s'en sortent plus. Ils n'ont plus assez d'argent de poche. Et oui, j'en ai côtoyé. Le 10 du mois, ils demandent la baisse du prix donc de la barrette de shit et des bières grenadines. C'est vrai qu'on a un peu de mal à retrouver ces petits dans toutes ces revendications. À vous, July.
Merci, Nikos. Les gilets jaunes attendent toujours une réponse de l'exécutif. Une 4e journée de manifestation dans Paris commence à s'organiser sur les groupes Facebook des gilets jaunes.
Oui, bonjour. Ah, bonjour à vous. Oui, c'est l'ancien monde, vous me reconnaissez. Comment ça va dans le nouveau monde, hein? Vous vous souvenez, le monde du dégagisme des anciens, le monde de la modernité triomphante, hein? Le monde du « nous ne gouvernerons plus comme avant ».
Monsieur Juppé, bonjour.
Oui, alors, bonjour à tous.
Vous étiez Premier ministre au moment des grèves monstres de 95. Hein? Comment vous voyez la situation actuelle alors?
Oh, bah, écoutez, je regarde la situation avec tristesse. Et néanmoins, je dois avouer une certaine forme d'admiration pour le président Macron.
Ah bon? Alors, vous êtes triste de voir Paris saccagé et vous admirez Emmanuel Macron qui tient son cap, c'est ça?
Non, pas tout à fait. Écoutez, je suis triste surtout de voir tomber mon record du championnat du monde de foutage de bordel. monsieur apathique est un fin observateur, le sait. Honnêtement, je pensais pas que quelqu'un ferait pire que moi. Et pour tout vous avouer, j'aurais plus misé une piécette sur François Hollande, voyez-vous. Mais là, Emmanuel Macron a foutu un tel bordel. Non, il est à 2 doigts de rendre la France tout simplement ingouvernable. Je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Il se prépare une longue suite de branlées électorales. Non, je crains réellement de perdre mon titre de champion de France là aussi, dans Charles l'artiste.
Allez, merci monsieur Juppé. Bah justement, il est là. Tiens, le président Macron a-t-il entendu la colère des gilets jaunes? Le mieux, bah, c'est de le lui demander. Bonjour monsieur le président.
Bonjour à toutes et à tous. À tous et toutes, celles et ceux et celles, chacun, chacune. Bonsoir aux casseurs et aux cassos. Oui, gilet jaune, j'ai entendu votre colère. Oui, je comprends votre douleur. Oui, je vais répondre favorablement. Enfin, oserais-je dire, à vos revendications. Et je fais mea culpa. C'est vrai que c'est indigne de vivre avec 1 200 € par mois. C'est pourquoi je propose de passer le SMIC à 2 400 € net et de supprimer l'impôt sur le revenu qui ne sert finalement à rien.
Mais vous plaisantez là,
hein? Évidemment. Ah. Elle est naïve celle-ci.
Oh, c'est ça fou. Va.
Non mais écoutez, depuis toujours, il faut se mettre une chose dans la tête. Les gens qui sont au SMIC sont pauvres. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, ça va continuer un bout de temps. Mais j'ai une solution. Oui, puisque toute la matinée vous avez posé cette question. Quelle est la solution? Comment en sortir? Eh bien j'ai la solution immédiate pour augmenter immédiatement le pouvoir d'achat.
Quoi?
Devenez migrant. Fuyez la France pour aller en Afrique, en Érythrée, au Soudan, toutes ces destinations où là-bas, avec seulement 1200 euros par mois, mais vous êtes le roi du monde, n'est-ce pas Jean-Michel Apathy?
Putain,
il ne faut pas me chauffer en ce moment. Tout le monde de la ramène, c'est un vaste bazar, c'est foutaise. J'écoutais l'économiste, son nom m'échappe. Non, Pamela Anderson.
Aguillon.
Je parle de Pamela Anderson, mais même elle nous donne des conseils. C'est pas parce qu'elle a fait alerte à Malibu avec ses bouées jaunes qu'elle doit se prendre pour Thomas Piketty. Et Marine Le Pen, c'est la pire de toutes. Elle dit oui à tout, la nymphomane des mesures. Mais oui, Nikos, moi je me mouille, moi j'ai pas peur, moi j'ai pas un gilet jaune, j'ai un slip jaune que j'enfile pour sauter dans la piscine, faire des bombes et mouiller tout le monde. Rien à foutre le Jean-Michel, rien.
Merci Jean-Michel Apathy.
C'était votre tour Jean-Michel.
Ben oui. Le bilan des violences dans Paris est lourd, 133 blessés, des commerces pillés, des voitures incendiées, l'Arc de Triomphe tagué. Bonjour Gérard Collomb.
Oui, bon.
Alors comment jugez-vous le bilan de votre successeur?
Eh bien écoutez, tout le monde a pu l'observer. Christophe Castaner a été très bon, en tout cas meilleur qu'un géranium ou meilleur qu'une moule ou une brique de 20 centilitres de jus de raisin pur.
C'est un compliment un peu spécial quand même. Hein. Meilleur qu'une moule, ça va.
Non, mais j'ai dit meilleur qu'une moule. J'aurais aussi pu dire meilleur qu'une télécommande sans fil.
Oui.
Vous savez, ouvrons les yeux, monsieur Abiker, madame Bouchard, monsieur Cabrol, madame Dacosta. Ouvrons les yeux à Paris, à Dijon, la crise est folle, à Brest, à Marseille, sauf curieusement à Lyon. À Lyon.
Tiens.
Quel dommage qu'Emmanuel Macron m'ait ignoré, méprisé. J'aurais sûrement pu rendre service.
Bon, alors en gros, vous trouvez que Christophe Castaner gère mal la situation. Des voix d'ailleurs appellent à sa démission. Est-ce que vous êtes du même avis, vous?
Écoutez, si Emmanuel Macron juge que le bilan de Christophe Castaner est trop lourd, oui, alors qu'il le remplace, mais il faudra que le pays gagne au change. Remplacer pour remplacer ne sert à rien, non. Il faut qu'il soit remplacé au minimum par un labrador ou une tondeuse à gazon.
Enfin,
quelque chose qui soit incontestablement plus qualifié que Christophe Castaner.
Allez, on va vous laisser. Merci Gérard Collomb. Allez, l'info était à la une du Figaro. Beaucoup de provinciaux parmi les personnes interpellées à Paris ce week-end. Anne Hidalgo, bonjour. Une réaction peut-être?
Oh, les petits bâtards, ils sont venus saccager ma belle capitale pour tenter de rendre Paris aussi moche que leur ville de province. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est très vilain. Moi, je le dis en tôle les casseurs.
Bon, les dégâts sont énormes, c'est vrai. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, de 133 voitures saccagées aussi.
Combien, dites-vous, 133
voitures,
vous dites saccagées?
Oui,
donc tout n'est pas à jeter dans les propositions des gilets jaunes. Abîmer les monuments, c'est mal, mais cramer des voitures qui polluent, ce n'est pas totalement vide de sens. Il y a une vraie démarche écologique, donc je le dis. Allez les gilets jaunes, 133 voitures, c'est bien, mais vous pouvez atteindre les 300 dès samedi.
Allez, leur donnez pas d'idée. Merci Anne Hidalgo. Hier, l'exécutif a donc reçu les chefs des partis politiques pour chercher des réponses à la crise des gilets jaunes. Ah, ça c'est Koh-Lanta, c'est Denis Brognard qui arrive, bonjour.
Amis aventuriers, bonjour. Et bienvenue dans Koh-Lanta Hexagone. Aujourd'hui, l'équipe d'Emmanuel et d'Edouard est en plein conseil. En effet, leur tribu a perdu tout son totem d'immunité. Et aucune épreuve de confort ne se profile à l'horizon. Malmené par la tribu des jaunes, Edouard a donc organisé un conseil exceptionnel avec la tribu des rouges, la tribu des bleus marines et la tribu des oranges du Modem. Alors qui sera éliminé? Edouard ou peut-être Casta, le célèbre labrador d'Emmanuel? Mais peut-être aussi Emmanuel lui-même. La tribu des jaunes est montée sur Paris avec ses flambeaux. Elle a réussi à confectionner un magnifique feu de camp à l'aide de branchages, de brindilles, de Twingo et d'Arc de Triomphe. Attention samedi, c'est la grande finale. Et la sentence risque d'être irrévocable. Alors à bientôt pour le prochain épisode de Koh-Lanta Hexagone.
Merci Nicolas Canteloup, merci Julie, c'était la revue de presque.
Il est 8h40.
7h58 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien nous allons mettre à part quelques régions qui sont des régions où il fera relativement beau aujourd'hui. Le bassin méditerranéen et le sud-ouest en font partie. Il y aura aussi le nord, la Picardie, les Ardennes et la Lorraine. Et puis partout ailleurs, ce sera un temps souvent couvert avec ici ou là quelques rayons de soleil parcimonieux, mais nous en avons tellement autour de notre table de ces rayons de soleil avec Julie, Maryse et Wendy et Céline que nous sommes gâtés. J'espère, chers amis, que vous êtes aussi gâtés que nous. En tout cas, ce sera une journée relativement agréable. Pourquoi ? Parce que les températures seront douces, entre 12 et 19 degrés. Et puis, autre raison, le temps sera relativement sec en deuxième partie de journée, après le repas. En tout cas, on vous souhaite cette journée bien agréable. Voilà.
Merci Laurent Cabrol. Nous sommes le mercredi 3 décembre. On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'information en temps réel sur Europe 1. L'heure est-elle à l'apaisement ? Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire des annonces ce matin devant les députés de la majorité à l'Assemblée. Emmanuel Dutheil, chef du service en France sur Europe 1. Vous nous avez rejoint. Le moratoire de la hausse de la taxe sur les carburants est donc acté.
Oui, c'est la fin d'un tabou. Ce moratoire des taxes sur l'énergie va être annoncé d'ici 2 heures. C'est un geste très très symbolique, mais ça ne devrait pas être la seule mesure. Des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat sont attendues. Certains parlent d'une baisse d'impôts ou d'une hausse de la prime d'activité. Le but, apaiser la tension et surtout renouer le dialogue, un dialogue qui semble pour le moment impossible. La réunion prévue cet après-midi avec les Gilets jaunes à Matignon a été annulée faute de participants.
Emmanuel Dutheil, chef du service France sur Europe 1. Alors cela va-t-il suffire à calmer la colère des Gilets jaunes ? On a posé la question ce matin à l'économiste Philippe Aguillon. Il a conseillé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il était mon invité à 7h45.
C'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Il faut faire un vrai Grenelle de la fiscalité, du social et de l'environnement.
On a encore le temps ?
Il faut le convoquer tout de suite. Il faut aller très vite. On est comme en 68. Moi, ça me rappelle 68. L'idée, c'est de dire, il y a un feu à éteindre. Et pour éteindre le feu, il ne faut pas s'interdire de dire, voilà, quand Bercy vient à chaque fois dire « moi, je ne peux pas ne pas faire les hausses de taxes », je veux dire « si, vous pouvez ». Voilà, c'est tout. Il y a certaines hausses qu'il ne faut pas faire, même si ça veut dire qu'on sort un peu des clous.
Sortir donc des clous
un petit peu, pour faire des réformes structurelles.
Philippe Aguillon qui propose notamment de sortir provisoirement de la contrainte européenne des 3% de déficit et de rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité ce matin. Merci à toutes les équipes, journalistes, reporters, techniciens. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon courage si vous partez travailler. Bonne journée si vous êtes chez vous, tranquillement, à l'écoute d'Europe 1. Wendy Bouchard et ses invités arrivent. On va parler avec Maryse des Restos du Cœur. Prenez soin de vous.